Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans l'Intégral Sport sur RMC. Beaucoup de choses à vous raconter cet après-midi encore dans des péripéties sportives, le multi-rugby qui vous attend avec notre consultant Julien Brugnot. Salut Julien.
Salut Alexandre, salut
en
à tous.
En forme.
Oui, effectivement.
Pleine forme. Ben oui, parce qu'on a des matchs quand même qui nous promettent soit peut-être des qualifs vers les playoffs, soit la mission maintien aussi en top 14.
Tout l'intérêt de ce championnat top 14.
Ouais, ça va être
très très serré jusqu'au bout.
Et puis le match juste avant a donné le ton hein, déjà aussi entre Castres et La Rochelle.
Et Castres qui aurait pu tuer sa saison aujourd'hui, qui s'est relancé, donc ça promet une fin de saison tonitruante.
Et puis il y a du foot aussi avec la 30e journée de Ligue 1, le derby de l'Ouest entre Nantes et Rennes. On va aller dans un instant voir Pierre-Yves Leroux, mais d'abord le tour des stades dans cette 21e journée de top 14, et ça bouge déjà dans le sud à Perpignan. Aimé Giral avec Julien Landry, Perpignan Lyon. Salut Julien.
Salut Alex, salut Julien. Oui, c'est parti très fort pour les Lyonnais, les Catalans qui ont voulu faire une sortie de camp propre. Touche petite trouvée derrière les Lyonnais, le jeu rapidement. Et en bout de ligne, Montiglione après un magnifique mouvement collectif et de la part des Lyonnais, du jeu dans le dos avec notamment Naniashvili qui est venu deux fois dans la ligne pour marquer cet essai non transformé derrière par Léo Berdeux. Mais les Lyonnais qui ne se sont jamais imposés encore cette saison à l'extérieur mènent pour le moment sur la pelouse des Mégiral 5-0 après 4 minutes de jeu.
Et oui, on va voir si l'USAP peut poursuivre sa remontée. Choc des extrêmes, on en parlait, Julien Brugnot. Bah tiens, Oyonnax 14e qui reçoit le Racing 92. Salut Pierre Thévenet.
Salut Alex, salut Julien, bonjour à tous. Cinquième minute de jeu ici à Charles Maton. Tu l'as dit, match importantissime pour Oyonnax qui doit absolument gagner pour espérer encore se maintenir. Ils ont 12 points de retard au coup d'envoi sur Montpellier qui est barragiste, toujours 0-0 bien sûr après 5 minutes de jeu. Et les Racingmen eux aussi doivent gagner, eux, pour la course au top 6 pour le coup, avec une fin de saison qui va être compliquée pour les Racingmen. Des gros déplacements à Toulouse, à La Rochelle, et puis plus de stades, plus de matchs à l'U-Arena. Les matchs sont délocalisés à Auxerre pour les Racingmen, donc il faut absolument prendre des points quand ils le pourront. Ils vont avoir l'opportunité d'ici quelques instants puisqu'il y a une première pénalité offerte aux Racingmen. On est à 25 mètres quasiment dans l'axe des poteaux et les franciliens vont sans doute choisir les 3 points. 0-0, 6ème minute de jeu.
Ouais, oui. Noter le retour de Nolan Nogarek, hein, ça va faire du bien
après sa commotion.
Ah, effectivement. Et d'Antoine Gibert également, qui était absent lui aussi contre le Stade Toulousain.
Qui était absent en quart de finale, en 8ème de finale contre le Stade Toulousain. C'est pas la même équipe en tout cas, à partir du moment où ces joueurs sont là, notamment Nolan dynamise énormément, c'est utiliser ses joueurs, c'est mettre de la vitesse en tout cas dans le jeu. Voilà, bah après il l'a dit, hein, mais c'est vrai pour toutes les rencontres. Aujourd'hui, chacun bataille un peu pour son bout de gras, soit pour la qualif, soit pour le maintien. Ça, c'est ce qui va rendre ces matchs très intéressants.
Et puis Julien, il y a ceux qui sont en tête du championnat. On va prendre des nouvelles des leaders. Et oui, les joueurs du Stade Français qui reçoivent à Jean-Bouin Bayonne avec la très belle voix d'Arthur Jean. Salut Arthur.
Salut Alex, salut tout le monde. Ça a commencé aussi très très fort ici. Tu te demandais si le leader allait bien. Et bien, il va très bien. Eh ben non, en fait il va plutôt mal, pardon. Premier essai pour Bayonne il y a quelques secondes, tout juste quelques secondes. Un premier essai de Cheikh Tibérien. C'était consécutif à plusieurs grosses percussions dans les 5 mètres du Stade Français. Et le premier essai de cette rencontre inscrit par l'ancien Clermontois Cheikh Tibérien. Ça fait 5-0 puis 7-0, transformation par Camille Lopez. Ça commence très mal pour les Parisiens qui sont pourtant très forts à domicile. Petite info tout de même, le Bayonne qui est 10ème du top 14 face au leader, et bien surprenant, c'est Bayonne qui commence le mieux le match et ça fait 7-0 à 8 minutes de jeu.
Et puis on file sans plus tarder sur notre dernier match pour Montpellier avec Paul Lafitte. Ça bouge là aussi au stade du Hameau.
Ouais, salut Alexandre, salut Julien et bonjour à toutes et à tous. Puisque la section paloise a marqué après 7 petites minutes sur un superbe turnover à l'arrivée, le capitaine Luc Whitelock. On avait vu Atis Ogbe se mettre en évidence, on avait vu également Samuel Ezeala qui rejoindra le Stade Français la saison prochaine. Les trois quarts qui sont mis en action à l'image de Nathan Decroix, bien relayé par Gaëton, le 3/4 centre international. Et donc cet essai de Luc Whitelock transformé face au poteau par le meilleur buteur du championnat de France, j'ai nommé évidemment Joe Simons. Le score de 7-0. On joue depuis 8 petites minutes en première mi-temps. Rappelons que Pau joue une qualif évidemment pour le top 6. Montpellier aimerait se maintenir. Les Palois étaient 7e avant cette journée, les Montpelliérains 13e. Donc pour l'instant, avantage à Pau qui mène après 9 minutes de jouer, 7-0 ici face à Montpellier.
Et ben voilà mon cher Julien Brugnot, on avait promis un multi de tous les les états, c'est parti à fond sur toutes les pelouses, c'est choc des extrêmes là qu'on est un peu partout.
Ouais, grosse surprise en tout cas au Stade français, ouais. Hein, c'est vrai qu'on voit surtout l'équipe de Bayern qui fait beaucoup de jeux. Alors, juste avant l'essai, il y a eu cette percée, on parle souvent de la défense, au moins avant la défense parisienne, une percée monumentale de Nadir Mekdoud, hein, qui vraiment a transpercé le rideau défensif, et puis après, quelques minutes après, ils ont pris cet essai. Le Stade français, on sait, à domicile, souvent gagne avec bonus, mais souvent au dernier moment, ils ont du mal à mettre leurs en place, ils font un peu peur.
Et puis c'est comme ça qu'on aime les voir, ces Bayonnais, hein, joueurs comme ils savent le faire, comme à leur habitude
complexe,
à l'extérieur.
Sans complexe, à l'extérieur, oui.
Tout à fait, avec cette grosse percée de Mekdoud, et finalement, c'est allé au bout. Attention tout de même à la réaction du Stade français, parce qu'on les connaît. Hein,
écoute, ils ont toujours réagi cette année. Toi, je me rappelle du match contre Lyon à domicile, où même on voit les Lyonnais aller s'imposer. Puis finalement, c'est les Parisiens, encore une fois, qui se sont imposés.
Et puis on retourne à Oyonnax.
Et la réaction catalane avec l'essai en bout de ligne des Catalans. Ils avaient récupéré le ballon. Et c'est Veredamou, le deuxième meilleur marqueur du championnat. 10 essais, qui marque son 11e essai de la saison et qui rattrape Baptiste Couillou comme meilleur marqueur d'essai. Mais voilà, les Catalans, ils ont très vite remis la main sur le ballon. Ils ont enchaîné les grosses séquences avec notamment cette pénal touche où Pozzolo Tuilagi a fait tourner le groupe et pénétrant. Pozzolo Tuilagi extrêmement puissant. Et puis derrière, on est parti sur les extérieurs. Le petit pas de doigt de McIntyre. Et derrière, on a servi Veredamou qui va marquer son 11e essai de la saison et qui permet aux Catalans d'égaliser. Aimé Giral, après 9 minutes de jeu, 5 partout. Transformation à suivre pour Jack McIntyre.
Les Parpillanais qui enfin, on voit un peu la patte Azema prendre forme. C'est vrai qu'une fois maintenant qu'ils ont enchaîné quelques résultats, la confiance est venue. Un jeu simple, un jeu sur lequel ils s'appuient sur leurs gros porteurs, les Tuilagi, les Faasso. Et après, avec beaucoup de dynamisme et surtout une certaine, un jeu assez léché qui est compris de tous les joueurs et qui met beaucoup de vitesse et qui arrive à déborder. Quand on a des finisseurs comme Veredamou ou même Dupichot hein, qui aujourd'hui est à l'arrière, et bien c'est facile de marquer les essais.
Allez, on va juste filer une seconde à Oyonnax, entre Oyonnax et le Racing, avec Pierre Thévenet pour le nom du marqueur tout à l'heure de ce premier essai des Racingmen.
C'est Tristan Teder, l'arrière du Racing, qui est venu marquer entre les poteaux après une belle percée. Il est venu asseoir Domingo Miotti, l'ouvreur Oyonnaxien. Il a marqué sous les poteaux, transformé lui-même son essai. Le Racing mène 7-0 après 10 minutes de jeu.
Merci beaucoup, Pierre Thévenet.
Laissez Montpellier avec Auguste Gadeau.
J'ai envie d'aller au foot, Julien, mais décidément, ça ne veut pas.
Ouais, laissez Montpellier, la réponse du berger à la bergère, puisque la section paloise avait marqué les premiers points par le capitaine Luc Whitelock. L'essai avait été transformé par Simons, le buteur. Eh bien, 3 minutes plus tard, les Montpellierains qui viennent camper dans les 22 adverses, et après 3 temps de jeu, finalement c'est le premier centre, Auguste Cadeau, qui s'y colle et qui aplatit, et bien dans l'embut de la section paloise, la transformation à venir pour l'excellentissime Louis Carbonel, qui pourrait permettre donc aux hommes de Bernard Laporte, le manager général de cette formation Roltes, de revenir à hauteur. Donc la transformation dans quelques petits instants. Il y a des points donc cet après-midi, Julien, sur cette pelouse de
un jeu légèrement étrange quand même, parce que on a vu la section paloise, la défense pas du tout circuler, une attaque assez stéréotypé, hein, des actions franches de une passe, mais bon voilà, les Montpellierains, ils ont du potentiel, ils sont costauds, ils savent gagner les duels, et à Sam de la ligne ça
pardonne pas, effectivement.
Ça pardonne pas.
Ouais, non, on va suivre évidemment la transformation de Louis Carbonel. On rappelait hein, que Montpellier souffre dans ce top 14 cette saison, ils étaient bien longtemps en dernière position, ils sont aujourd'hui 13e et donc en position de barragiste, mais évidemment il y a très peu d'écart de points entre les équipes de milieu de tableau et Montpellier, donc pourquoi pas rêver quand on sait que Montpellier eh bien recevra l'USAP Toulouse et Lyon d'ici à la fin de la saison pour deux déplacements à Castres et à Clermont. Ils vont donc viser l'excellence cet après-midi, et Louis Carbonel qui égalise. La transformation est passée, 7 partout. On joue depuis 13 petites minutes en première mi-temps.
Un match sous les yeux de Bernard Laporte. Allez, on file dans l'Ouest pour le derby de l'Ouest entre Nantes et Rennes, avec Pierre-Yves Leroux qui va devoir batailler pour se faire une place au milieu des rugbymen. Salut Pierre-Yves.
Salut, bonjour à tous, bienvenue à la Beaujoire. T'inquiète, je vais jouer des épaules pour entrer dans cette rencontre. Je les connais, les cocos là.
Et c'est Lyonnais
autour. Tiens, tu vois, ça commence. Je connais celui-là particulièrement. 0-0, juste, je vous dis juste ça, 0-0, vous n'avez rien raté après un quart d'heure à la Beaujoire.
Merci Phil, t'as pris les politesses. Allez, on file à Lyon.
On se rend coup pour coup à Aimé Giral après l'essai catalan signé Veredamou sur le coup d'envoi, ballon récupéré par les Lyonnais, et c'est un gros travail collectif derrière avec notamment Vincent Ratez et surtout Julien Niniashvili, cet arrière géorgien qui est de tous les bons coups,
qui a accéléré. Tu l'aimes sa relance, hein, tu l'aimes son attitude, hein.
Ouais, non, mais c'est un joueur qui est plaisant à voir parce que il tente toujours des coups. Il paraît des fois un peu fou. Il se pose zéro question.
Il se pose zéro question. Il a les qualités athlétiques pour, hein, mais il se pose pas de questions. Il a jamais les yeux qui regardent le sol. Il est toujours animé en tout cas par cette volonté d'aller derrière la ligne et en tout cas toujours positif avec ses coéquipiers.
Et Baptiste Couillou, qui avait vu Veredamou le rattraper au classement des meilleurs marqueurs d'essai du championnat, vient donc de lui répondre et marquer lui son 12e essai de la saison. Baptiste Couillou, meilleur réalisateur de notre championnat. Julien, bloqué en équipe de France, mais qui s'épanouit cette saison à Lyon et qui permet.
C'est un débat là.
Ouais, après, non, mais en tout cas, il fait une très bonne saison. Il fait une très bonne saison. Et derrière le ballon de Léo Berdeux qui est tombé et qui n'a pas pu parce qu'il avait engagé sa course d'élan. Du coup, tous les Catalans se sont précipités. Berdeux n'a pas pu taper cette balle. Et ça fait deux transformations ratées pour les Lyonnais qui ne mènent donc que 10-7 sur la pelouse d'Aimé Giral après 12 minutes.
Il y a du vent à Perpignan.
Jamais ici. Tu sais bien que c'est très rare.
Allez, on va faire un tour des stades tout de suite. On va redémarrer par Oyonnax Racing avec Pierre Thévenet. Le temps, le score, messieurs.
7-0 pour le Racing 92 face à Oyonnax grâce à Tristan Teder. Et là, les Oyonnaxiens ont l'occasion de réagir, touche dans les 22 mètres du Racing.
Stade français Bayonne, Arthur Jean.
14e minute de jeu, 7-0 pour des surprenants Bayonnais qui pour l'instant font souffrir le Stade français.
Et puis Pau, Montpellier, Paul Lafitte.
Ouais, Alexandre, le quart d'heure de jeu ici au Stade du Hameau sous un beau soleil, 7 partout, un essai de part et d'autre entre la section paloise et Montpellier.
Et puis un petit temps et score n'entraîne le derby de l'Ouest, c'est la Ligue 1 avec Pierre-Yves Leroux.
Pas de but donc pour le moment, après 16 minutes de jeu à la Beaujoire, 0-0. Des Rennais qui poussent et qui mettent en difficulté cette équipe nantaise, on le rappelle, qui est sur 8 matchs sans victoire ici à domicile, une première dans l'histoire, et les Nantais et les Rennais qui ne sont pas sur une très bonne série non plus, une seule victoire en 7 matchs.
Julien Brugnon, heureusement que tu as amené une gourde de 50 litres d'eau parce que là on y va à fond dans cet intégral sport absolument monstrueux. Allez, on revient dans un instant.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Et on est ensemble pendant près de 2 heures avec Julien Brugnon, notre consultant, pour cette 21e journée de Top 14 complètement folle, le multi-rugby. Et on retourne à Aimé Giral sans plus tarder avec Julien Landry. Nouvel essai, Julien.
Ouais, on se rend coup pour coup dans cette partie. À chaque fois que les équipes rentrent dans le 22 mètres adverse, ça fait essai au final. Alors soit c'est bien attaqué, soit c'est mal défendu, au choix. Cette fois-ci, c'est Possolo Tuilagier qui a fait encore une énorme différence sur le côté. Il est passé les bras, le petit offload de Tuilagier, puis derrière le joueur rebondi et McIntyre avait un boulevard devant lui pour aller sous les poteaux aplatir le deuxième essai. Deux essais de chaque côté, sauf que la différence c'est que McIntyre connaît le vent. Julien, mais Julien, quand il y a moins de 50 km/h à Perpignan, on dit qu'il n'y a pas de vent, donc McIntyre lui il connaît le vent, et donc ça fait 14 pour les Catalans et seulement 10 pour les Lyonnais parce que Léo Berdeux lui a raté ses deux transformations. 14-10 pour les Lusap ici à Aimé Giral.
Julien, et Julien, je vais insister, on a quand même un duel de mauvaise défense en fait aussi cet après-midi, donc on risque d'avoir pas mal d'essais. Ah ça, je vous ai cloué le bec là. Ouais, je suis allé
moi, ce qui me saute aux yeux surtout, c'est les Perpignanais qui bien sûr ont pris deux essais, mais en début de saison ils auraient baissé un peu la tête, ils auraient restreint leur jeu. Bien au contraire, ils ont une telle confiance, et notamment à l'image de McIntyre, hein, qui est en feu, hein, depuis cette deuxième moitié de saison. Et c'est vrai que même si c'est lui qui marque, mais il n'y a pas que lui qui a travaillé sur cette action, mais Perpignan en tout cas sait que ça passera par le jeu, par des offloads, par les hommes forts. Chacun en fait a ses qualités à amener à l'équipe, et il le fait, donc c'est pour ça que pour l'instant il y a cette confiance des Perpignanais.
Ouais, c'était 12e et 13e défense, hein, Perpignan et Lyon.
Mais écoute, quand t'as une mauvaise défense, on marque plus de points, c'est tout. C'est aussi ça.
8 victoires d'affilée à Aimé Giral pour les Catalans. Julien, 6e guichet fermé aujourd'hui. Ils sont portés aussi par l'engouement ici à Perpignan depuis des semaines, et c'est vrai qu'il y a cette volonté de jouer sans cesse dans tous les endroits du terrain, et pour moi ça porte ses fruits parce que les Catalans sont aujourd'hui 9e au classement. Ils pourraient presque regarder un peu vers le haut aujourd'hui en cas de victoire. 20 minutes à Aimé Giral, 14-10 pour l'USAP.
Et le peuple catalan aussi, ça fait des années que ça fait le yo-yo entre la Pro D2 et le Top 14. C'est pas le meilleur des jeux qui leur est proposé, mais cette année quand même, notamment je pense aux dernières semaines, des bonus offensifs, du beau jeu, ça a fait monter, ça fait venir. C'est vrai que le peuple catalan attend ça et sera toujours derrière son équipe.
Allez, on file sous la grisaille du stade Jean Bouin, stade français Bayonne. Là aussi ça a bougé pendant la pause, Arthur Jean.
Ouais, il s'en est passé des choses pendant votre absence. 20e minute de jeu, 10-0 pour Bayonne. Alors il y a eu un essai qui a été annulé. En fait, les Bayonnais faisaient le siège des 22 mètres parisiens. Ils dominent ces Bayonnais, ils jouent crânement leur chance. Et finalement, une magnifique passe de Camille Lopez à l'entrée des 22 mètres pour Cheikh Tiberian. Cheikh Tiberian, on croyait inscrire à doublé. Et au final, une passe qui était en avant. Malgré cette magnifique action, effectivement. Et c'est annulé. Et on est revenu à une position de hors-jeu en faveur des Bayonnais. Et Camille Lopez en face des poteaux. Évidemment, ça passe. Ça fait 10-0 pour les Bayonnais. On est à la 20e minute de jeu.
Allez, direction maintenant le stade Charles Maton. C'est avec Pierre Thévenet, Oyonnax face au Racing 92.
23e minute de jeu, toujours 7-0 en faveur du Racing. Les Oyonnax qui tiennent ce ballon dans la moitié de terrain du Racing et qui n'arrivent pas du tout à être dangereux. Des petits coups de pied tentés par Domingo Miotti, notamment là à l'instant, qui a terminé en ballon mort. Oyonnax qui est une équipe qui manque cruellement de confiance. Aucune victoire en 2024 pour les joueurs de Joël Abd. Ils sont derniers alors qu'à la fin du mois de décembre 2024, c'était 11e du classement, loin devant Montpellier notamment. Ils se sont fait dépasser depuis. Ils sont tout au fond du classement de top 14 et ils doivent absolument s'imposer. Pénalité donnée à l'instant aux joueurs d'Oyonnax. On est sur la ligne des 22 mètres en face des poteaux du Racing. Très certainement qu'on va prendre les 3 points pour ouvrir le compteur d'Oyonnax. Petit conciliabule et on va indiquer les poteaux. L'occasion donc pour Miotti de revenir au score 7-0 pour l'instant pour le Racing 92 grâce à un essai transformé de Tristan Teller.
Et on file à Pau Montpellier. Paul Lafitte, là aussi ça bouge.
Oui, ça a bougé avec deux pénalités de Joe Simons pour deux fautes montpelliéraines pour un score de 13-7 en faveur des Béarnais. Mais là on est sur un temps fort montpelliérain qui viennent camper dans les 22 adverses. Une terrible accélération d'Ngandébé et attention là, ils sont en train d'avancer centimètre par centimètre. Le relais des trois quarts qui s'y collent et peut-être un groupé pénétrant, un fin de ballon, le ballon qui est sorti. Et que dit l'arbitre? Finalement, ce sera un coup de pied, un ballon perdu par les Montpelliérains. Julien, pourtant, les Montpelliérains avaient fait, on pensait la différence là, sur cette dernière action.
Ouais, ils ont cette capacité, en tout cas, incroyable, à accélérer, à déborder cette défense par la vitesse, par la qualité aussi de leurs porteurs. À chaque fois, ils gagnent des duels. Et c'est vrai que pour l'instant, les Montpelliérains qui jouent un jeu simple, hein, il avait très bien dit Colazo en reprenant l'équipe, on va d'abord partir sur les fondamentaux. C'est un jeu simple, ça ne nécessite que du travail. Et c'est vrai que pour l'instant, ça porte ses fruits. On les sent bien dans le match.
Ouais, même s'ils sont les 13-7. Et puis un petit clin d'œil pour les supporters béarnais, on évoque le peuple catalan. Je peux vous dire que cet après-midi, grand soleil, 21 degrés, les Béarnais qui n'ont plus connu de phase finale de championnat depuis des lustres, hein, si ce n'est en Pro D2, et bien cet après-midi les Béarnais poussent derrière la section paloise qui a un objectif de top 6 en fin de saison. Donc pour l'instant, cet avantage de 13-7, on joue la 26e en première mi-temps ici au Hameau.
Voilà pour les pelouses du rugby, la 21e journée du top 14. Mais il y a aussi du foot dans cette intégrale sport avec le derby de l'Ouest entre Nantes et Rennes, un peu plus de 25 minutes de jeu. Pierre-Yves Leroux est déjà un joueur remplacé côté nantais.
Oui, à l'instant, effectivement, le premier changement, on s'en doutait un petit peu, Douglas Augusto a été au sol à deux reprises, peut-être les adducteurs, en tout cas il vient d'être remplacé par Kader Bamba, le sauveur des Nantais lors de la dernière journée face au Havre, qui avait marqué dans les tout derniers instants un but très important en vue du maintien. C'est lui qui rentre, toujours 0-0 après 26 minutes de jeu. Les Rennais qui perforent là la défense nantaise, ils n'ont pas réussi à mettre vraiment Lafond en difficulté, mais ils sont très souvent dans la moitié de terrain nantaise. Il y a eu un tir cadré tout à l'heure pour les Canaries signé Kozza, mais pour tout vous dire, dans cette première demi-heure, on n'a pas vu franchement du grand football. Ça va peut-être venir là avec la frappe de Douai, roulée, oh la barre, est-ce qu'elle est rentrée? Est-ce que la montre a vibré? Je n'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas but, mais c'était tout près de la lucarne pour les Rennais, de l'ouverture du score. C'est checké malgré tout. 0-0, 27 minutes. Quelle frappe enroulée qui trompe Lafond. Je pense qu'elle tape d'abord.
Il y a presque transformation là, Julien.
Pour moi, elle est rentrée. J'ai l'impression qu'elle est rentrée. Elle tape la transversale. Elle tape le poteau derrière.
Non, pas sur le deuxième ralenti.
En tout cas, la montre n'a pas vibré. Et effectivement, il n'y a pas but. Toujours 0-0 après 28 minutes. Oh, c'était la plus belle action. Vous êtes venu au bon moment cette première demi-heure. Quel nez, quel pire.
Avec Désiré Doué qui a pris l'habitude, hein, d'ailleurs, en plus de marquer contre Nantes, c'est deux buts sur les trois derniers matchs, me semble-t-il. Allez, on retourne au rugby avec Perpignan face à Lyon. Julien Landry au stade Aimé Giral.
Ouais, les Catalans qui vont prendre les points. Léo Berdeux qui a encore, lui, raté une pénalité. Elle était lointaine, mais une action encore surprenante. Julien, pénal touche pour les Catalans. Jacques McIntyre rate complètement son coup de pied et les Lyonnais complètement endormis qui laissent le ballon rebondir. Et qui c'est qui est là pour récupérer le ballon? Lucas Dubois. Et les Lyonnais s'en sortent très bien parce que derrière, Lucas Dubois a failli aller derrière la ligne et sur l'action qui a enchaîné, les Catalans sont venus mourir à un petit centimètre de la ligne, et derrière, mais plutôt qu'aller en touche comme ils avaient fait en début de match, McIntyre va prendre les points pour essayer d'aggraver un petit peu le score, 17 à 10 pour les Catalans. Mais c'est vrai que c'est surprenant la passivité des Lyonnais sur ce coup de pied complètement raté de McIntyre qui aurait pu coûter très cher aux Lyonnais. Ils s'en sortent bien avec seulement 3 points encaissés. 17-10 pour les Catalans, 25 minutes à Aimé Giral.
Oyonnax Racing avec Pierre Thévenet. Où on en est du côté d'Oyonnax, Pierre?
Ça n'a pas bougé, toujours 7-3 en faveur du Racing. 27e minute, les Oyonnaxiens qui tiennent le ballon dans la moitié de terrain du Racing. Ils enseignent les temps de jeu là à l'entrée des 22 mètres. Mais voilà, à nouveau, une petite imprécision. Un ballon envoyé dans la tête de Phoenix Batty. Et on a du coup reculé de 10 mètres. Teddy Durand qui arrive à remettre de l'avance. Et là, le talonneur Oyonnaxien, pour l'instant, ça défend bien côté Racing. Julien, petit manque de confiance qu'on sent dans les rangs d'Oyonnax. On tient le ballon, on tente des choses, mais on n'arrive pas bien à se trouver.
Ouais, effectivement, ils arrivent à tenir le ballon. Mais bon, il manque en tout cas de rythme, en tout cas pour vraiment inquiéter. On voit une défense du Racing qui est plutôt bien organisé, mais c'est vrai que puis les petites erreurs techniques, les petites erreurs de justesse n'aident pas en tout cas à reprendre confiance. Pour moi, ils insistent trop, ils sont pas assez ouverts. Peut-être qu'ils ont pas les joueurs, hein, mais je pense pas. Ils sont pas assez ouverts en tout cas à essayer de déployer du jeu, à essayer de pas avoir de crainte face à cette équipe du Racing en face et de jouer un jeu un peu plus déployé. Pour l'instant, ils font un jeu trop stéréotypé, trop simple en tout cas à défendre et sans vitesse, ils ont du mal à prendre l'avantage.
Allez, on file à Jean-Bois maintenant avec Arthur Jean. Le Stade français, le leader face à Bayonne, et un leader pour l'instant en difficulté.
26e minute de jeu ici à Jean-Bouin et toujours 10-0 pour l'aviron bayonnais. C'est assez impressionnant ce qu'est en train de faire Bayonne, il faut le dire, même si le match est loin d'être terminé. Il y a certains joueurs qui ont des cannes de feu à Bayonne. Nadir Mekdoud est très très bon.
J'allais t'en parler, il est en feu, hein, depuis le début du match. Il est en feu, l'ancien du Stade français, parce qu'il a joué au Stade français pour quand il s'était relancé. C'est là il est en train de rappeler qu'il aurait peut-être dû rester finalement.
Ça fait trois très grosses percées qu'il fait Nadir Mekdoud, avec un très bon Camille Lopez aussi en chef d'orchestre. Donc toujours 10-0 pour Bayonne. On joue la 27e minute de jeu. Et je peux vous dire que si les Bayonnais continuent comme ça, le Stade français a du souci à se faire.
Ouais, affaire à suivre. Allez, on va faire le tour des stades avec le temps et score, messieurs. On retourne voir Julien Landry, Perpignan, Lyon.
17-10 pour les Catalans, 28 minutes à Aimé Giral.
Temps et score, Pierre Thévenet, Oyonnax Racing.
28 minutes également ici, 7-3 en faveur du Racing 92.
Et pour Montpellier avec Paul Lafitte.
Oh, c'est très très chaud à Jean-Bois encore une fois. Il essaye refusé après de très bonnes séquences de Bayonne dans les 5 mètres adverses. Encore une fois, Bayonne qui continue à enfoncer, qui continue à pousser le bouchon là, juste à côté
c'est chaud, parce qu'il y a pénalité maintenant. Il y avait un joueur qui empêchait la libération.
Il y avait avantage pour Bayonne et l'essai est donc refusé parce qu'il y avait, semble-t-il, une main en dessous.
On va juste faire un aller-retour du coup pour aller voir Paul Lafitte à Pau et on revient te voir, Arthur Jean. Paul Lafitte pour Montpellier.
Ouais, Alexandre, la réduction de l'écart de Montpellier avec peut-être un nouvel essai pour la section paloise. Accélération de Nathan Decron, le crochet, et il va peut-être y aller. Nathan Decron, il est plaqué, mais il marque l'essai. Le joueur formé au SU Agen, magnifique action de la section paloise. Alors que, je le disais, les Montpelliérains étaient revenus par une pénalité de Louis Carbonel face au poteau, un pénalty. Ils étaient sur une nouvelle offensive, les joueurs de Patrice Collazo. Il y avait une faute de béarnaise et évidemment le buteur avait pris les points pour ramener son équipe à 3 unités. Mais sur l'action qui a suivi, on a vu que les trois quarts, encore une fois, Julien, se mettaient en branle. Et à l'image encore une fois du capitaine Luke Whitelock, qui se trouve toujours dans les bons coups, qui déchire le dernier rideau défensif et qui trouve à hauteur Nathan Decron pour le deuxième essai béarnais.
Ouais, je n'ai jamais senti venir. Ah,
tu l'avais vu que Nathan Decron serait aussi excellent, parce que franchement, pas évident quand même. Hein.
Plaqué, et le nouvel essai à Jean-Bois, le doublé pour Cheikh Tiberia qui marque son deuxième essai, 28e minute de jeu. Ça commence à devenir très chaud pour le Stade français.
Allez,
15-0 pour Bayonne.
Julien, il y a le feu dans la maison, parce que être mené de 7 points ou 10 points maximum, on peut revenir. Mais
c'est
surtout qu'il n'y a rien en fait. Déjà, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Laurent Labille qui le disait dans une interview dans Midi Olympique. Il disait très bien qu'ils avaient du mal à développer, enfin en tout cas à enseigner le jeu qu'ils souhaitaient cette saison. Mais ils pouvaient s'appuyer sur une grosse défense, une grosse conquête. Pour l'instant, la défense, elle est pas là.
Bah pour le baptême du feu d'Arthur Jean, hein, visiblement, on sait à qui il porte chance. Le Stade français, le leader pour l'instant, secoué sur sa pelouse par Bayonne. En tout cas, ça donne du suspense pour ce multi-rugby de
feu. Messieurs, l'essai n'est pas transformé. L'essai de Nathan Decron n'est pas transformé par Joe Simons, qui a trouvé le poteau gauche. On en reste à ce score de 18 à 10,
merci,
donc en faveur des Béarnais.
Merci. Allez, temps et score pour Pierre-Yves Leroux, parce que c'est Nantes-Rennes aussi en Ligue 1, le derby de l'Ouest.
0-0, 33 minutes de jeu. J'aurais bien pris un peu de temps pour te donner les noms des buteurs, mais il n'y en a pas.
La prochaine sera la bonne. Est-ce qu'on suit la transformation action quand même à Jambouin avec Arthur Jean.
Et oui, on peut la suivre puisque c'est transformé par Camille Lopez qui est encore une fois, on le rappelle, très bon aujourd'hui. On joue la 29e minute, doublé de Cheikh Tiberian et deux transformations de Camille Lopez. 17-0 pour l'Aviron Bayeux.
Et il y a déjà du changement, non? En première mi-temps, il y a déjà du changement, non?
Eh oui, on dirait bien que j'ai vu trois joueurs sortir, c'est allé un petit peu vite.
On te laisse bien regarder ça le temps de la pause. Allez, on va souffler un instant, messieurs. On revient dans un Intégral Sport de folie sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Eh oui, un Intégral Sport de folie sur RMC. J'en perds les mots. Pourquoi j'en perds les mots? Mais Julien Brugnon à côté de moi peut confirmer. Le leader du top 14, le Stade français, les amis, vacille sur sa pelouse, ne respire plus, même 17-0 pour Bayonne.
Totalement absent des débats. Hein.
Incroyable.
On les a vu tout à l'heure, on mettait en avant un peu leur point fort depuis le début de la saison. La défense, malmenée, en tout cas transpercée. La conquête, on a vu la dernière mêlée où ils ont été pénalisés, ce qui leur arrive très rarement. Je me demande comment s'est passée cette semaine de préparation. Est-ce que cette période européenne, finalement, elle n'est pas un peu endormie?
C'est possible. Arthur Jean, au stade Jambouin, on a vu des changements, la sortie de Sekou Makalou notamment.
C'est ça, 34e minute de jeu, il y a eu un triple changement, et peut-être l'essai là. Et oui, c'est un essai pour le Stade français, 35e minute. Un peu difficile d'apercevoir qui a marqué au milieu de ce tas d'avant. Et la première réaction parisienne, ça avait commencé par une réaction au niveau des changements. Le Stade parisien n'était pas content du tout. Triple changement. Et il faut croire que ça fait effet, 35e minute. Un essai, on va attendre un petit peu avant de savoir à qui l'a accordé.
Mais Arthur, tu dis essai collectif, et puis après,
essai collectif.
Et après, ça fait plaisir à tous les groupes. Il n'y a pas de jaloux.
Elle est pour tout le monde, celle-là, sur le côté gauche du terrain. Et c'est une première action du Stade français. Et c'est Michael Ivaldi, le talonneur d'expérience, qui inscrit cet essai-là.
Voilà, la réaction, Julien.
La réaction, je pense que c'est le coaching aussi à la 28e, faire de trois changements, notamment la sortie d'un joueur emblématique et tellement important comme Sekou Makalou. Ça a dû faire réagir en tout cas à l'équipe. Même si c'est du
son
jeu.
Son anniversaire en plus. C'est son anniversaire.
Ah, je peux dire qu'il va être sympa l'anniversaire ce soir.
Il va être content.
Ah, ils sont capables de le faire réagir, de le sortir, mais ils peuvent aussi le faire rentrer. On connaît la règle dans ce rugby.
Je ne sais pas s'il sera avec Christophe Cessieux du coup, parce que c'est l'anniversaire de Christophe Cessieux.
On va faire une belle soirée ce soir. On va se régaler.
Allez, on file maintenant dans le sud. L'USAP face à Lyon, c'est au stade Aimé Giral avec Julien Landry.
Un duel de buteurs depuis une petite dizaine de minutes. McIntyre qui vient de répondre à l'instant à Léo Berdeux qui avait passé enfin une pénalité qui avait permis aux Catalans de revenir à 4 points. Mais à l'instant, McIntyre qui a rajouté 3 points de plus, 20-13. Et encore une fois, Julien Arancé, on parle beaucoup de lui, mais Posolo Tuilagi, c'est quand même un joueur à part dans ce championnat. On l'a encore vu là, dans la ligne de trois quarts, prendre la balle, accélérer, passer les bras et arriver à faire jouer derrière lui. C'est vraiment un phénomène. Alors, il est encore jeune, il a moins de 20 ans, mais l'association Meafoot Tuilagi dans l'avenir pour l'équipe de France, c'est Fabien Galthié qui se frotte les mains en ce moment parce que Meafoot, c'est quand même un joueur à part de notre championnat.
Alors, même s'ils ont tous les deux le même profil, je ne suis pas sûr qu'ils jouent ensemble, mais bon, c'est vrai que des joueurs comme ça, de ce profil avant, ils étaient juste destructeurs, il n'y avait rien, il ne se passait rien à côté. Mais ce joueur, il a cette intelligence, ce sens tactique dans les mains qui fait que, en fait, on peut s'appuyer dessus, on peut jouer derrière lui, ce qui le rend d'autant plus intéressant.
Et puis, c'est vrai que si on compare à son papa, Henri Tuilagi, qui avait ce côté destructeur, mais un peu moins joueur derrière lui, que tu as affronté.
Il
se passait beaucoup de choses quand tu l'as affronté en face, par contre, Julien. C'est-à-dire, quand il t'arrivait dessus, tu te disais, mince, ça va pas se passer.
Il y avait moins d'incertitude, tu savais que ça allait être dur physiquement, mais il y avait moins d'incertitude.
Alors que Tuilagi, il arrive à faire jouer derrière lui.
Il suffit de tenir le regard. Normalement,
non, mais faut le prendre un peu haut, parce que sinon, il va jouer dans ton dos et t'es eu, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'Henri, quand tu l'affrontais, quand il t'a rentré dedans, tu devais fermer les yeux en disant j'y vais, mais j'ai peur, quoi.
Ah, il a plus envie de répondre là.
Non, écoute, j'en ai pas un mauvais souvenir, donc après ça serait de vantard.
Allez, on va filer à Oyonnax Racing avec Pierre Thévenet, parce que Oyonnax grignote son retard petit à petit.
Ouais, Oyonnax s'accroche, hein, 39e minute, 7-6 pour le Racing 92, nouvelle pénalité de Domingo Miotti il y a quelques minutes. Les Oyonnaxiens qui ont toujours autant de mal à venir mettre à mal la défense du Racing, mais petit à petit, avec des fautes des franciliens, notamment en mêlée fermée, ils arrivent à se rapprocher et ils sont pragmatiques. Ils ont tenté une première fois d'y aller à la main par Christopher Vautoa. Ça n'a pas marché sur la deuxième pénalty. Domingo Miotti est venu prendre les points. Un petit point de retard donc pour Yona face à un Racing très peu inspiré dans ce début de match.
Tu me dis, parce que du coup, il y a les quatre matchs en même temps, mais moi j'ai l'impression quand même que le Racing a du mal, en tout cas, à jouer hors de son camp, qu'il y a beaucoup de possession de la part des Oyomen. Mais bon, au bout d'un moment.
Ça faisait 20 minutes qu'Oyona avait le ballon. Là, enfin, on va avoir un lancer à venir, lancer en touche sur la ligne des 22 pour le Racing devant la défense d'Oyona. On voit le Garrett tenter autour des rugs de venir chercher par des petites Chisquera, notamment des retours intérieurs vers ses avants. Mais on a très peu vu la paire de Santa Boivou-Ficou, on a très peu vu Roanimov et Donovan Taofifenoa également. Il reste du temps, il va rester toute une deuxième période, mais c'est compliqué pour
Et Pierre, le Garrick, pas gêné pour son retour à la compétition, on rappelle.
Non,
il rejoue depuis sa commotion cérébrale, tout va bien.
Il va bien, il lead son paquet d'avant comme d'habitude, tout va bien pour Nolan Le Garrick. Et c'est lui qui va être là à la réception sans doute de cette touche à venir pour le talonneur Narissia à l'entrée des 22 mètres d'Oyona. 7 à 6 en faveur du Racing, 39e minute ici à Charlemagne.
Et puis c'est la mi-temps au stade du Hameau entre Pau et Montpellier, Paul Lafitte.
Oui Alexandre, avec un avantage de 5 points pour la section pauloise qui mène 18 à 13. Les Béarnais avaient marqué un deuxième essai qui avait permis aux Verts et Blancs de faire le break 18 à 10. Mais une nouvelle faute cette fois-ci de Nathan Decroix face au poteau a permis à Louis Carbonel de ramener encore une fois ses éroltés à seulement 5 unités. Un match plaisant, hein, Julien, durant ces 40 premières minutes avec du jeu, des essais de part et d'autre et Montpellier qui colle à la section paloise.
Ouais, deux styles différents, mais en tout cas il y a beaucoup de volonté en tout cas de déplacer, d'aller marquer. Et c'est vrai que les Montpellierains avec un petit peu plus de maîtrise, je pense que ils pourraient être un peu plus proches, voire même devant au score. Mais les Palois, dans leur style, hein, qu'on leur connaît bien, nous régalent en tout cas.
Et on va peut-être retourner à Oyona parce que ça presse du côté du Racing, Pierre Thévenet.
Ouais, mais petit en avant du Racing à l'instant, juste devant la ligne d'en but des Oyonnaxiens. C'était seulement leur troisième entrée dans les 22 mètres d'Oyona et c'est un avant du Racing, il me semble, Jordan Joseph qui a lâché ce ballon juste devant la ligne d'Oyona et du coup ils vont pouvoir repartir sur une mêlée dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période, 7 à 6 en faveur du Racing.
Et puis on retourne là aussi où ça bouge, c'est à Jean Bouin, Arthur Jean, entre le Stade Français qui est mené par Bayonne.
40e minute de jeu, toujours 17 à 7 pour l'aviron bayonnais. Le Stade Français a réagi après un début de match quand même assez compliqué, on le rappelle, doublé de Cheikh Tiberian et c'est Michael Ivaldi qui a inscrit le premier essai de la révolte parisienne, essai qui d'ailleurs avait été transformé par le demi d'ouverture anglais du Stade Français Zach Henry. On en reste là pour l'instant et la mi-temps approche dans quelques dizaines de secondes, 17 à 7 pour Bayonne.
Et la mi-temps approche aussi dans quelques secondes en Ligue 1 entre Nantes et Rennes, le derby de l'Ouest, Pierre-Yves Leroux, et Rennes qui essaye de marquer avant la pause.
Ah oui, Terrier là avait l'opportunité de frapper éventuellement, il a préféré distribuer sur Doué côté droit. 45e minute, toujours 0 à 0 dans cette rencontre. Finalement Doué qui tente un geste difficile pour réussir à garder le ballon, il fait un tacle derrière un peu dangereux sur Castelletto, il va prendre d'ailleurs un carton jaune. On va rentrer dans les arrêts de jeu de cette première période, personne n'a réussi à prendre l'avantage peut-être juste pour les Rennais au niveau psychologique avec cette belle frappe de Doué tout à l'heure que je vous ai décrite, qui a touché d'abord la barre puis le poteau sans réussir à rentrer dans les buts. 3 minutes de temps additionnel ici à la Beaujoire, toujours 0 à 0 entre Nantais et les Rennais et la Cloche.
Et on va revenir te voir dans quelques instants. La mi-temps à Perpignan, Julien Landry, entre Perpignan et Lyon.
Avec un avantage pour les Catalans qui mènent 20 à 13, deux essais de chaque côté, des Lyonnais trop pénalisés en première mi-temps, 10 pénalités contre les Lyonnais. Les Catalans mènent donc de 7 points à la mi-temps.
Et puis on retourne à Oyona avec Pierre Thévenet parce que ça joue encore entre le Stade Français et Bayonne, mais aussi entre Oyona et le Racing 92.
Alors, on a dépassé la 40e minute, toujours 7 à 6, mais sur cette dernière mêlée, introduction Oyona, les Racingmen sont allés chercher une pénalité, ça va être cruel pour Oyona qui va sans doute encaisser 3 points supplémentaires. Tristan Teder a montré les poteaux, il va tenter cette pénalité qui va sans doute permettre au Racing.
Et Stade Français Bayonne,
nouvel essai pour Bayonne, le troisième déjà, la mi-temps approche et c'est Federico Mori qui est allé inscrire cet essai sur le côté gauche là. Une très belle passe au pied de Camille Lopez, la superbe inspiration du demi d'ouverture bayonnais pour Arnaud Herbin Artegaray, le numéro 13, qui envoie une petite passe subtile qui la remet dans le terrain à l'entrée des 5 mètres sur le côté. Et Federico Mori qui n'a plus qu'à accélérer, arbitrage vidéo.
Et monsieur Duchamp. Ouais, de toi à moi, je pensais que Camille Lopez tapait en touche. Parce que le bouquet était droit, la 40e passée. Bon, et en fait, pas du tout en fait. C'est
clair, mais
c'est le premier d'intérieur. Alors, je sais pas ce qu'il va regarder, monsieur l'arbitre.
Ouais, Monsieur Nuchi qui va sans doute regarder si peut-être Federico Mori passe en touche. On ne sait pas trop pour l'instant. En tout cas, c'est encore une super passe. Les éclairs viennent souvent.
Il y a peut-être un léger en avant sur la transmission de la dernière passe, mais
peut-être c'est possible. C'est possible aussi. On va
attendre. En tout cas, et là, tout leur réussit au Bayonnais. Hein. Ça, là, ils sont en fire.
C'est assez impressionnant. Ils jouent dans tous les sens les Bayonnais et ça paye pour l'instant. Et j'ai l'impression que cet essai est toujours en train d'être revisionné. Mais
ouais, c'est la mi-temps d'ailleurs entre Yona et le Racing 92, 10-6 pour les Racing Men à la pause. C'est à toi, Arthur.
Eh bien, on attend la transformation de Camille Lopez ici à Jean-Bouin. On pensait le Stade français un petit peu ragaillardi là, avec des belles actions en conquête, des ballons grattés, des ballons récupérés en touche. Et finalement, chaque éclair bayonnais fait mouche. Et là, cette fois-ci, c'est l'Italien, le trois quarts centre italien, Federico Mori, qui est venu inscrire.
Je vois pas pourquoi, en tout cas, sur la pose du ballon dans l'embut, je vois pas pourquoi le monsieur Nuchi.
Peut-être sur le dernier plaquage, peut-être. Hein, bah non, on dirait pas qu'il passe en touche. En tout
par
cas,
contre,
bah, on ne sait pas.
On va sur le plaquage de Bredouard, hein.
On va attendre de voir ça. En tout cas, il met la main à la poche, monsieur Nuchi, j'ai l'impression.
Est-ce que c'est le dernier plaquage, à mon avis, où il y va à l'épaule?
Peut-être il y va à l'épaule sans mettre les bras, et c'est ce que dit la règle. En tout cas, ça peut être très dangereux de faire ça. Et
ah bah c'est pas un plaquage, c'est un coup d'épaule simplement. Tu dois ouvrir les bras, tu dois venir pour en tout cas verrouiller le joueur. Et c'est ça, et du coup il prend un carton.
Tout à fait, j'ai l'impression qu'il y a... Et oui, plaquage dangereux, carton jaune pour Brad Weber, le demi-mêlé néo-zélandais du Stade français. L'essai est bien validé, donc ça va être une nouvelle transformation à venir pour le chef d'orchestre basque, Camille Lopez. Et ça pourrait commencer à faire très mal pour le Stade français, puisque ça fait déjà 22-7 en attendant la transformation. Une première mi-temps ratée dans les grandes largeurs quand même pour les Parisiens.
Et la mi-temps à la Beaujoire.
La mi-temps, Pierre-Yves Leroux, le score?
Eh bien 0-0, pas de buteur. Voilà, un nul pour l'instant dans ce derby. Avantage quand même peut-être aux Rennais qui se sont créés la plus belle occasion de cette rencontre.
Merci Pierre-Yves. Allez, on retourne à Jean-Bouin, Arthur Jean, pour cette transformation qui arrive.
Et cette transformation, elle est très très compliquée, hein. À l'entrée des 22 mètres sur la gauche là, Camille Lopez qui est complètement en coin. Ouais,
surtout pour un gaucher, hein, c'est pas le bon pied.
Et il s'en fiche, Camille Lopez. Il n'a pas cette pénalité. Il est très très à l'aise dans l'exercice. 88% de réussite au pied cette saison. C'est la mi-temps à Jean-Bouin. Et on est à 24-7 pour l'aviron bayonnais qui surprend toujours autant.
Ah, ils font pas les choses à moitié. C'est assez surprenant ce qui se passe en tout cas dans ce multi-rugby en compagnie de Julien Brugnot qui me fait les gros yeux. Et oui, le Stade français leader est mené largement sur sa pelouse par Bayonne. Bref, c'est ce qui vous attend sur AMC dans un instant. Les secondes périodes de cette 21e journée de top 14, mais aussi la seconde période de Nantes-Rennes en foot, la Ligue 1 0-0 à la pause. Plein de choses à vous raconter, c'est dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Et rebonjour à tout le monde, on est encore ensemble pendant une bonne heure dans cette Intégral Sport de folie avec la 21e journée de Top 14 qui nous offre de sacrés rebondissements. Le Stade français, le leader, est mené 24-7 sur sa pelouse par Bayonne. On va en reparler dans un instant avec notre consultant Julien Brugnot. Mais tout de suite, c'est l'heure des paris RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et c'est le moment de parier avec le truculent Yoann Bredov.
Salut Alex.
Salut à tous. Alors, Nantes-Rennes, derby de l'Ouest, 0-0 à la mi-temps.
Et c'est Rennes qui reste favori, qui était déjà favori avant le début du match. C'est 2,35 la victoire rennaise, 2,15 le match nul, 3,55 la victoire de Nantes. Je vous avais proposé le match nul tout à l'heure. On est pas mal. Je vous avais même proposé le 0-0.
Bravo.
Eh oui,
bravo.
je vous avais proposé le moins de 1,5 but dans la rencontre qui était à 2,80. Donc on va rester sur ces choses-là avec le match nul à 2,15. Après, pourquoi pas s'amuser. Alors si vous voulez jouer débuteur, c'est
génial, les buts, s'amuser.
Mostafa Mohamed à 5,70, Kalimundo à 5,10. T'as envie de jouer quelque chose toi, Julien?
Mostafa Mohamed.
Meilleur buteur de Nantes, hein, cette saison.
Eh oui, exactement.
Tu crois que je dis ça au hasard?
Ah non, bien sûr. Je confirme ce que tu dis.
Avec 8 buts cette saison, 5,60. Tiens, le but de Mostafa Mohamed.
Très bien. Merci. Allez, beaucoup, Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et puis c'est le moment de débriefer aussi dans l'Intégral Sport, peu avant 18h, avec cette 21e journée de Top 14, mon cher Julien Brugnot, qui nous offre un feu d'artifice pour l'instant d'essais, mais d'histoires aussi à raconter. Notamment, on va débriefer d'abord le leader, le Stade français, qui est en... C'est même pas grande difficulté là. C'est
qui est en galère totale.
C'est un non-match du Stade français, mené 24-7 par
Bayonne. De Karim Ghezal, qui est au bord de terrain, mais il reconnaît pas son équipe. Il y a rien.
Il a effectué des changements déjà.
Il a effectué des changements à la 28e. week-end, ça c'est quand même assez rare quand même, c'est vraiment un acte fort. Mais surtout à part ce groupe pénétrant où ils ont réussi à inscrire TC et Paris-Valdi, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. On reconnaît pas leur défense, on reconnaît pas leur conquête, on reconnaît pas tout simplement leur état d'esprit qui les a amenés à être premiers de ce championnat et qui à se sortir, à gagner à l'extérieur, à se sortir de situations compliquées à domicile. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont baissé un peu les bras et puis des baïonnés qui n'en demandaient pas tant en tout cas pour remplir la jauge de confiance. Ouais. Et quand on a quelques joueurs de talent, notamment Camille Lopez à la baguette, avec des joueurs qui sont un peu revanchards, McDoud, Tibérien, enfin surtout McDoud, qui était un ancien de la maison, qui fait un match incroyable et trop de franchissement en tout cas dans cette première mi-temps pour exister.
Ouais, ça va être notre fil rouge dans la seconde période, bien sûr, dans ce multi rugby sur RMC. Perpignan qui mène aussi 20 à 13 face à Lyon, les Perpignanais qui continuent pour l'instant à la mi-temps leur belle remontée dans cette deuxième partie de saison.
Et Perpignan, deux destins différents, une équipe lyonnaise qui est en grosse difficulté début de saison. À chaque fois, même si au classement ils ont jamais été trop largués, mais maintenant ils sont dans la zone rouge. Et Perpignan qui ont envoyé batailler jusqu'au bout pour le maintien, ils sont toujours dans ce cas-là, mais qui sont sur une succession de victoires, notamment très probantes avec des bonus offensifs. Donc deux profils différents, les Perpignanais qui
Toulouse, Castres dernièrement. Là,
Toulouse, Castres, c'est pas série, rien. Hein, Blanc, Toulouse a gagné contre tout le monde, à part contre Perpignan. Et c'est vrai que les Perpignanais, moi, ce qui me plaît, c'est que quand ils sont en difficulté, quand ils prennent des essais, leur solution, c'est le jeu, c'est de passer par le jeu. Ils ne ferment pas le jeu, bien au contraire. Mais les Lyonnais, voilà, on voit le retour de Léo Berdeux, qui est un peu plus compétitif, en tout cas, depuis sa blessure. Il y a des Niachvili, il y a quelques joueurs comme ça. Ouais. Il y a l'Italien Lyonnais qui est, moi, je trouve incroyable. Après ce tournoi des Six Nations, il est en grande forme, il amène énormément, en tout cas. Lui, très décrié avant, en début de saison.
Pas de creux en fait, il reste
Il est en train de monter en puissance. Non mais c'est vrai que c'est un match qui est plutôt plaisant à voir, donc voilà.
Autre match tiens qui est très plaisant à voir aussi, où c'est très ouvert, et Pau vise cette quête des phases finales, hein. Pau qui mène 18-13 face à Montpellier.
Ouais, Pau qui pour moi porte un peu le match, dans le sens où c'est eux qui mettent le rythme et les Montpelliérains n'ont qu'à suivre en fait. Donc c'est vrai qu'on les a pas trop vus grands joueurs, les Montpelliérains, dû à leur situation du début de saison. Ils ont enchaîné les 8 ou 9 défaites d'affilée, mais c'est vrai que les Montpelliérains se mettent dans le tempo, donc ils proposent du jeu, jouent, sont plutôt agréables à avoir joué, bon, même s'ils sont de menés en tout cas à la pause. Les Palois vont avoir du mal en tout cas à se sortir de ce piège Montpelliérain, mais bon, les Montpelliérains, il faudrait pas qu'ils se crispent sur cette deuxième période, parce que eux jouent leur
ils ont gros à jouer effectivement. Et puis enfin, le match entre Yona et le Racing 92, c'est un peu le mauvais élève de notre multi-rugby. Match un peu plus fermé, 6 à 10 en faveur du Racing sur la pelouse.
Il se passe pas grand chose. On a des Oyomens qui depuis le début de la saison en fait essayent, font, mais bon, trop de fébrilité technique, tactique.
Sur une pente qui continue.
Ils ont un jeu qui est le même depuis le début de saison. L'année dernière en Pro D2 ça fonctionnait parce qu'ils étaient plus dominants physiquement, mais aujourd'hui ils tombent sur des équipes, notamment le Racing, qui est capable de défendre correctement, et surtout une attaque d'Oyonnax, même s'ils ont la possession, qui crée pas de danger en fait. Donc c'est un peu inquiétant en tout cas pour Oyonnax, qui elle lutte également pour le maintien.
Eh ben justement, ça a repris sur une des pelouses de ce multi-rugby. C'est avec Paul Lafitte. Ça a repris entre Pau et Montpellier, Paul.
Oui, Alexandre, il y a tout juste 45 secondes. Ce sont les Palois qui ont donné le coup d'envoi de ce deuxième acte. Vous le précisiez, messieurs, avec un avantage de 5 points pour la section paloise, 18 à 13. Mais tout est tellement serré que si Montpellier venait à s'imposer cet après-midi ici sur la pelouse du Hameau, il reviendra à seulement 4 points de la section paloise qui vise un top 6. Donc il restera après cette journée encore 5 matchs à jouer pour chaque équipe, pour analyser. Et pourquoi ne pas rêver pour cette équipe de Montpellier qui recevra à 3 reprises, on le rappellera d'ici à la fin de la saison, l'USAP, Toulouse et Lyon pour 2 déplacements à Castres et à Clermont. Mais pour l'instant, donc, le début de cette deuxième mi-temps, rien n'a bougé. 18 à 13 en faveur des Béarnais.
Ben c'est ce que disait Julien Brugnot, c'est la richesse aussi de notre championnat, cette homogénéité, les écarts très réduits entre les équipes. Ça promet pour la deuxième partie de notre intégral sport. Dans un instant, on revient avec la suite de cette 21e journée de top 14, le multi-rugby, mais aussi le derby de l'Ouest en football, la 30e journée de Ligue 1 à Nantes, entre Nantes et Rennes. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
L'intégral sport sur AMC, encore une heure avant de laisser la place à nos amis de Stephen Time avec Stephen Brun évidemment et Arnaud Valadon qui recevront d'ailleurs tout à l'heure Nedim Remili, l'international français de handball qui sera avec eux, et puis aussi Mauro Gianetti, le manager de la team Emirates, le manager de Tadej Pogacar, bref des invités prestigieux tout à l'heure à 19h Stephen Time. Mais en attendant, c'est l'intégral sport qui se poursuit avec Julien Brugno avec cette 21e journée de rugby qui nous promet quand même un sacré spectacle. On le rappelle, le Stade français est mené 24-7 sur sa pelouse par Bayonne, et ça repart dans un instant. Arthur Jean
qui va pas tarder à taper le coup d'envoi de cette deuxième période. Tu le disais, 24-7 pour Bayonne, un doublé de Cheik Tibérien et un essai en coin de Federico Mori. Du côté parisien, c'est Michael Evaldi qui a réduit l'écart, et c'est reparti d'ailleurs, ballon réceptionné par Giovanni Abel-Kufner dans les 22 mètres parisiens. Des Bayonnais sans complexe contre des Parisiens qui sont décevants, on va le dire aujourd'hui, le leader du top 14.
Hein, le mot est même faible hein, quand on est supporter parisien, puis même quand on aime ce championnat, le leader en tout cas doit montrer un autre visage, en tout cas quand il reçoit le 11e du classement.
Et pourtant il y a du monde aujourd'hui à Jambon, je dirais 15 000 spectateurs à l'œil, quelque chose comme ça.
Tu connais la difficulté de remplir les stades en région parisienne hein, parce que notamment en rugby on est plutôt spectateurs que supporters, donc quand le Stade français arrive grâce au classement, grâce aux résultats précédents à faire venir du monde, au moins les joueurs devraient montrer un autre visage.
Allez, on file à Perpignan avec Julien Landry, c'est reparti entre Perpignan et Lyon.
Ouais, et les Catalans sont déjà à 1 mètre de la ligne d'essai avec McIntyre, la passe sur un pas à l'intérieur, mais la très bonne défense des Lyonnais, mais les Catalans qui ont toujours la balle. On est à 5 mètres de la ligne d'essai, le ballon qui va être sorti par Tom Ekochard. On va essayer de lancer Alan Brazo et de peut-être faire jouer dans le dos. Il y a Posolo Tuilagi qui s'est placé évidemment dans le dos pour peut-être faire jouer derrière lui ou pour faire à l'air, et finalement la pénalité nouveau jouée rapidement par Tom Ekochard qui va derrière la ligne, les Lyonnais qui sont trop pénalisés. 13e pénalité contre les Lyonnais. Tom Ekochard qui a joué rapidement de manière comme un petit filou à demi-mêlée. Tom Ekochard, le 3e essai des Catalans, et voilà les Catalans qui s'envolent au score 25-13, 45 minutes dans cette deuxième période. Transformation à suivre pour Jack McIntyre.
Tom Ekochard, à l'image de tous ces demi-mêlées hein, qu'on leur demande de peser en permanence, de stresser les défenses, de prendre les opportunités, effectivement ils jouent vite la pénalité, les défenseurs sont de dos, hein, grosse erreur technique en tout cas de la part des défenseurs. Mais c'est vrai que la question que je me pose depuis le début de saison avec ces Lyonnais, c'est l'inconstance. Ils sont incapables depuis le début de saison, mais c'est pas que sur les matchs à l'extérieur, incapables de faire des matchs de 80 minutes avec de bonnes prestations. Souvent c'est des hauts et des bas. Toi, je peux remonter même en début de saison à La Rochelle, où ils vont faire un match à La Rochelle, où ils font un très bon match, ils tiennent les Rochelais, sauf qu'à bout d'un moment ils s'écroulent totalement. C'est le problème des Lyonnais cette
saison. Au Stade français il y a un mois,
exactement, on les voyait gagner chez les leaders et ils se sont écroulés.
Un seul point pris en déplacement, Julien, par les Lyonnais cette saison. 10 défaites, un seul point de bonus défensif. C'est trop peu pour exister dans ce top 14. Et attention à ne pas avoir la pression du maintien jusqu'à la fin de la saison, avec des réceptions de Pau, du Racing de Toulouse, des déplacements à Toulon et à Montpellier. Le loup n'est pas à l'abri dans cette fin de saison en étant aussi inconstant.
T'appuies sur un point important. Souvent on dit derrière il va rester 5 matchs, mais c'est pas les 5 mêmes matchs pour toutes les équipes, parce que va rentrer dans cette histoire les équipes qui vont jouer la Coupe d'Europe, qui vont faire tourner, ouais, les équipes qui sont moins bien classées. Enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, et il y a des calendriers qui vont être différents et qui vont amener en tout cas beaucoup d'incertitudes.
Allez, messieurs, c'est reparti aussi au foot hein, la 30e journée de Ligue 1 entre Nantes et Rennes. On va aller dans un instant voir Pierre-Yves Leroux, mais en attendant on file aussi à Oyonnax Racing avec Pierre Thévenet. C'est reparti également.
C'est reparti depuis 5 minutes, ça n'a pas bougé, toujours 10-6 en faveur du Racing 92. Le soleil s'est levé hein, sur le froid de Oyonnax. Il fait 5 degrés aujourd'hui à Charles Maton. On espère que ça va réchauffer un petit peu les 30 acteurs et leur donner envie de faire un peu de jeu. En tout cas, on a fait rentrer le serial marqueur anglais Henry Arundel, 8 essais cette saison en top 14. Il est rentré à la mi-temps à la place de Donovan Taofifenua, mais les Racing mènent à nouveau sanctionnés et Oyonnax va avoir l'opportunité de retourner dans les 22 mètres du Racing avec cette pénalité à venir pour Domingo Miotti. 4 points de retard pour Oyonnax, 10-6 en faveur du Racing à la 46e minute.
Allez. C'est 25 degrés, Pierre, à Perpignan. C'est juste pour te donner un petit peu.
Tu redis ça, tu ne parles plus. Hein. Nous, on a froid ici, on est encore en doudoune.
Bah, les 5 petits degrés font mal en sortant de la voiture.
Le
là,
les supporters en face de moi sont en t-shirt en tribune.
On retourne plus te voir, je te dis. Bon, c'est reparti également à Pau, entre Pau et Montpellier, Paul Lafitte.
Ouais, Alexandre Pau qui s'est donné un petit peu d'air avec une pénalité inscrite par Joe Simons qui permet à la section de mener 21-13. Mais on a fait rentrer du lourd côté Montpellierin, Baptiste Chalureau, Léo Colli ou encore Camara pour donner un petit peu plus de puissance évidemment, car Montpellier en a besoin. Montpellier qui est derrière, Montpellier qui bien voit la section paloise faire la course en tête dans cette rencontre. Deux essais, on le rappelle, et là nouvelle faute de Camara me semble-t-il, et donc la section qui récupère un ballon. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal pour les Béarnais, 21-13 donc, mais il reste encore évidemment une grosse demi-heure à jouer ici au Stade du Havre.
Et je te dirais juste, pour Montpellier, la puissance derrière sans la maîtrise, parce que le problème c'est pas la puissance qui leur fait défaut, c'est ce qu'ils en font.
Ouais, on a quand même vu une attaque en première intention avec Léo Colli qui trouve son premier centre. Ce n'était pas loin de passer pour les Montpellierains dans les 22 adverses. Tu le disais, un jeu simple pour les joueurs de Patrice Collazo. Ça ne passe pas encore, mais ils sont au contact, 21-13. Donc, on le rappelle, moins maintenant d'une demi-heure à jouer ici au Stade.
Et dans cette intégrale sport, il y a aussi du foot. 30e journée de Ligue 1, Nantes-Rennes avec Pierre-Yves Leroux. Rennes qui a dominé la première période, Pierre-Yves, mais Nantes essaye de réagir. Là.
Oui, tout à fait. Les Nantais qui essayent avec leurs moyens réduits de faire mieux qu'un match nul, puisqu'on rappelle qu'il y a toujours 0-0. Je dis réduit parce qu'il y a beaucoup d'absents en attaque, notamment avec les blessés habituels, Ganago, Simon notamment, mais Abling qui ne joue pas puisqu'il est prêté par Rennes, et puis Kadewere qui est toujours blessé au mollet. Donc il y a Mohamed qui essaye de faire le boulot devant, mais il a du mal à être servi, à l'image de cette passe-là qui a été captée par Omari, la défense rennaise, et qui transmet tout de suite à Kalimuendo. Peut-être les Rennais vont réussir à appuyer un petit peu plus encore sur l'accélérateur pour ouvrir le score. Ce n'est pas le cas pour le moment, toujours 0-0 après 51 minutes à la Beaujoire.
Oui, Rennes qui a encore des espoirs de Coupe d'Europe, mais ça passe par une victoire cet après-midi évidemment au stade de la Beaujoire. Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux. On retourne à Paris, stade Jean Bouin, Arthur Jean, le stade français mené sur sa pelouse par Bayonne.
Exactement, ça fait 6 minutes que ça a repris au stade Jean-Bois, toujours 24-7 pour l'aviron bayonnais, et grosse séquence là pour le stade français à l'entrée des 5 mètres bayonnais. Le stade français qui
et
a
le nouvel essai du Racing, l'essai du Racing après un contre de 100 mètres des franciliens. Gaël Ficou qui a franchi la défense d'Oyonnax comme dans du beurre, il a traversé le terrain sur 50 mètres derrière, il oublie Nolan Le Garec à son extérieur, il essaie d'y aller tout seul, il est repris juste devant la ligne, le ballon qui sort un petit peu n'importe comment du ruck, et c'est Antoine Gibert qui traîne là, qui poursuit au pied et qui vient marqué, c'est cruel pour Oyonnax qui était à nouveau dans les 22 mètres du Racing. Ça fait 15-6 en faveur des franciliens avant la transformation à venir de Tristan Tedder. On a joué 10 minutes en seconde période.
Et cruel, mais tellement explicable en tout cas par toute cette débauche d'énergie, en tout cas des Oyomens qui sont restés stériles. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, physiquement, ça craque, on fait moins l'effort, on fait moins les couvertures intérieures. Et quand on a la vista, on a un joueur comme Gaël Ficou, en tout cas, on connaît ce petit crochet, il l'utilise souvent, mais il est tellement efficace. C'est vrai qu'on est en train de revoir l'action et il a croqué quand même Gaël
sur l'action. Il oublie complètement Le Garec à l'extérieur sur la
balle. Nolan Le Garec qui est un bon ministre de l'intérieur à l'image d'Antoine Dupont était là.
Il fait une première fin de passe, Ficou, il pense qu'il est passé et qu'il continue à accélérer.
Est-ce que tu penses qu'il y a une tension entre Gaël Ficou et Nolan Le Garec?
Non, pas du tout.
Il y aurait une petite tension, une petite tape dans la tête à la fin du match quand même.
Ça finit bien avec cet essai d'Antoine Gibert, on va dire. Heureusement qu'ils sont allés au bout. Essai qui est transformé à l'instant par Tristan Tedder. Ça fait donc 17-6 en faveur du Racing 92. 50e minute de jeu ici à Charlemagne.
Ouais, le Racing qui fait pour l'instant un bon match à l'extérieur, qui ne se découvre pas, qui prend les opportunités qu'on lui donne. Voilà, pour l'instant, ils sont 3e du championnat et ils risquent de garder cette place à la fin de la journée.
18h12 dans l'intégral sport sur AMC. On va faire un tour des stades, messieurs.
Oh, Kalimuendo, la frappe qui passe juste à côté, les buts de Lafond. Oh, l'occasion pour les Rennais, ça passe juste à côté. J'ai bien cru à l'ouverture du score pour les hommes de Julien Stéphan, mais on en reste à 0-0 à la 53e minute.
Le derby de l'Ouest entre Nantes et Rennes. Allez, tour des stades avec commencer Stade français à Jean Bouin face à Bayonne. Arthur Jean.
Bayonne mène 24-7 contre le Stade français, leader du top 14, 48e minute de jeu.
Perpignan, Lyon, Julien Landry, temps et score.
50e minute à Aimé Giral, c'est l'USAP qui fait la course en tête, 27-13.
Pour Montpellier, Paul Lafitte.
La 55e ici au Stade du Hameau, 21 pour la section paloise, 13 pour les Montpellierains.
Et pour terminer, Pierre Thévenet, Oyonnax Racing.
52e minute, les 7 Gibert vient de donner 11 points d'avance au Racing qui mène 17 à 6 face à Oyonnax.
Julien Brugnot peut se désaltérer quelques secondes. On revient dans un instant pour cette intégrale sport et la suite du multi-rugby et aussi la 30e journée de Liga. Tout de suite.
RMC intégrale sport, Alex Biggerstaff.
Et Julien Brugnot également en poste pour la suite de la 21e journée de Top 14. Feu d'artifice d'essai. Évidemment, tiens juste pour vous rappeler que Castres a battu La Rochelle 25-24 tout à l'heure en début d'après-midi. Et le super Moscato Show sera au centre d'entraînement de La Rochelle mardi à partir de 15h avec Brice Dulin, avec Pierre Bourgarit, Winnie Antonio, Grégory Aldrit ou encore Ronan O'Gara. Émission spéciale en direct de La Rochelle mardi prochain. En attendant, il y a eu du mouvement pendant notre petite pause avec deux essais, un du côté du Stade français avec le Stade français face à Bayonne, Arthur Jean qui a réagi, qui tente de réagir, le Stade français mené.
Et oui, ça a bougé au Stade Jean-Bouin, la 51e minute de jeu, c'est Romain Briat qui a réduit l'écart pour le Stade français, les Parisiens qui reviennent petit à petit dans la course. C'était suite à un bon lancement de jeu, une touche, un maul et un ballon envoyé au large, il a fallu un bon décalage, une bonne passe pour que Romain Briat aille dans l'embut et s'est transformé par Zach Henry, 24 à 14 pour les Parisiens. Et on peut dire que c'est enfin une réaction qu'on attendait depuis quelques minutes.
Et puis Julien, on a vu un carton jaune aussi.
Ouais,
hein.
C'est Facundo Bosch, hein, mais souvent tout va ensemble, hein, c'est-à-dire que c'est une tendance. On sentait les Bayonnais un peu moins impliqués, en tout cas dans ce début de seconde période. Et c'est vrai que Facundo Bosch, ben voilà, est copé d'un carton jaune. Ça plus ça fait que effectivement en supériorité, ça a donné de l'élan à cette équipe. Facundo Bosch est argentin, effectivement. Et c'est un.
Il est bien argentin, c'est ça.
Oui, il est bien argentin.
Et donc tout ça, moi je tiens à noter quand même l'intervention de Romain Briat, hein, vraiment qui vient bien appeler, qui vient proposer en tout cas, et puis la réactivité en tout cas de son demi-mêlée Ward, en tout cas, très très belle passe. Mais bon, le Stade français qui va encore nous surprendre et qui va encore nous faire une petite remontada à la rugbyman, mais qui va encore nous un énième match serré, un énième scénario qui vont renverser.
Allez, l'essai lyonnais à l'instant, l'essai de Maracou pour les lyonnais.
Pardon, il y avait l'essai Onana aussi pendant la pause.
Et c'est lyonnais qui vont revenir à 7 points des catalans. Les catalans qui se sont un peu endormis depuis 10 minutes. Autant on a eu une première mi-temps très enlevée. Cette deuxième période, elle est un peu plus molle. Les catalans qui tentaient de gérer avec notamment l'appui du vent. Et là, la réaction des lyonnais avec Maracou qui a été derrière la ligne pour marquer cet essai que va transformer probablement Léo Berdeux. Et voilà les lyonnais qui vont revenir à 7 points dans cette partie et offrir un suspense comme sur quasiment toutes les pelouses de top 14. 27-20 pour l'USAP contre le Loup. Et il reste 25 minutes à jouer.
Les Lyonnais qui font mentir, en tout cas, on les pensait un peu plus dans le dur, en tout cas dans cette deuxième période. Mais comme quoi, voilà, ils sont venus en tout cas décomplexés pour jouer. Et encore avec à la baguette un Léo Berdeux, hein, qui vient de marquer la transformation. Ça promet en tout cas un match. Alors, faut pas être catalan ou lyonnais, mais en tout cas pour les amateurs de rugby, qui va nous procurer beaucoup de plaisir.
Et puis la lanterne rouge Oyonnax, Pierre Thévenet qui tentait de réagir, hein, qui tente de revenir face au Racing, mais il y a eu un carton jaune aussi à l'instant.
D'abord un essai d'Oyonnax qui leur a permis quand même de revenir à 13 à 17, un essai magnifique de Lucas Mensa après une grosse percussion dans le centre du terrain. Les ailiers Enzo Rebi et Gavin Stark se sont illustrés et c'est donc Lucas Mensa qui vient finir en puissance. Mais là sur le renvoi, un carton jaune pour le pilier remplaçant Adrien Bordenave pour un plaquage à retardement sur Gaël Ficou. Et les Racing Men sont allés en touche avec un ballon porté d'école. Les voilà qui marquent un nouvel essai. Qui vont reprendre le large sous les sifflets bien sûr du Stade Charles Maton. Et c'est en puissance du talonneur remplaçant Yannick Tarit, parfaitement construit ce ballon porté, et le Racing reprend le large 22 à 13 avant la transformation à venir pour l'arrière sud-africain Tristan Teder.
Julien, si tu veux un essai tu me demandes, hein, je te donne.
C'est vrai que pour l'instant t'es pas mal quand même, hein. On va éviter d'aller en pause du coup parce qu'il y a des essais aussi pendant la pause.
On est tranquille.
Non, mais les Racingmen, encore une fois, un match parfait à l'extérieur, hein, très calme, très posé, une faute, une agression. Et c'est vrai que même si on n'était pas revenu sur l'agression, ça méritait, hein, c'était vraiment,
c'est pas beau. En fait, Gaël Ficou se fait plaquer très très retardement par Adrien Bordenave qui lui tape au niveau du genou. Ça aurait pu être dangereux pour le centre international français qui heureusement s'est relevé.
Ouais, c'est un jaune orangé, bon bref,
ouais, c'est ça.
Bon écoute, c'est pas plus mal pour les Oyonnax, mais après très froid en fait sur les en plus sur ce qui caractérise aussi la force de ces Oyonnax. Sur un groupe pénétrant, ils ont réussi à les prendre au cœur, hein, c'est travaillé, c'est propre. Et bon, Tarit, il vient de rentrer, il est frais, il a pu conduire le camion tranquillement derrière la ligne et inscrire cet essai.
La transformation de Tristan Tedder à venir. On est collé à la ligne de touche côté droit sur la ligne des 22 mètres pour l'arrière du Racing. Ça part. Est-ce que ça va passer entre les poteaux? Oui, parfait. Tristan Tedder au pied 100%. 24 à 13 à nouveau. 11 points d'avance pour le Racing. 58e minute ici à Oyonnax.
Et puis on n'est pas encore allé voir Paul Lafitte parce que Pau au stade du Hameau affronte Montpellier. Avantage toujours au Palois.
Oui, effectivement. Avec un avantage de 8 points. 21 à 13 pour les Béarnais. Moins de 17 minutes à jouer. Mais Julien, on a quand même la sensation sur ce que l'on voit depuis maintenant. Un gros cadreur que Montpellier a peut-être un coup à jouer. On sent des Palois véritablement fébriles.
A plus du tout la main en tout cas sur le match, ils ont plus du tout l'emprise sur le timing, enfin sur le. Et c'est vrai que les Montpelliérains pour l'instant, mais toi ils vont dans ton sens, c'est-à-dire que leur puissance physique arrive en tout cas à casser en tout cas l'empreinte des Palois sur ce match. Et c'est vrai que même si là ils sont sanctionnés sur la mêlée.
Ouais, alors c'est assez particulier car il y a eu deux bras cassés à l'avantage de Montpellier et ils ont pris la mêlée à un secteur dans lequel Pau semble un petit peu meilleur sur une bonne dynamique et on l'a vu, introduction pour Montpellier et c'est finalement Pau qui récupère le ballon, évidemment Joe Simons qui se régale, une pénale touche qui va renvoyer le jeu dans le camp des Montpelliérains, une trentaine de mètres de la ligne d'en but. On rappelle ce score donc de 21 à 13, rien n'est fait, un petit peu moins de 17 minutes à jouer ici à Pau.
Et puis il y a du foot aussi dans cette intégrale sport sur RMC. Pierre-Yves Leroux à Nantes-Rennes.
25 minutes à jouer encore dans le temps réglementaire, toujours 0 à 0 entre les deux équipes. On n'arrive pas à savoir si la pièce va tomber d'un côté ou de l'autre, ou si on va rester sur ce match nul. Pour le moment, c'est pas un grand match, il faut le dire, mais pour le moment ça arrange peut-être tout le monde de prendre un point, peut-être un peu moins les Rennais. Pour eux, la course à l'Europe, et ils poussent d'ailleurs pour essayer quand même d'arracher quelque chose, à l'image de Ludovic Blas qui, à chaque fois qu'il touche le ballon, est sifflé par son parcours, vous le savez, puisqu'il était Nantais, il a même gagné la Coupe de France avec les Canaries il y a 2 ans. On en est loin de la Coupe de France. 0-0 et de son esprit. 65.
Julien Brugnon a une question pour toi, Pile. Oui. Est-ce que j'arrête pas de dire derby de l'Ouest depuis tout à l'heure pour ne pas dire derby de Bretagne.
Mais je comprends pas, moi.
Qu'est-ce qu'il faut privilégier?
Il y a le duc de Bretagne à Nantes. Donc
c'est la question qu'on adore.
C'est le derby de la
Écoute,
Bretagne.
Je suis absent des réseaux sociaux. Alors, voilà. On peut m'insulter. Je suis pas là. Donc
on peut dire que moi je suis à l'Ouest. Voilà. J'aurais dû dire derby de Bretagne.
Non, mais c'est pas faux puisque c'est à l'Ouest. Mais ça reste derby de la Bretagne.
Non, c'est ma petite blague. Dès que je rencontre quelqu'un qui me dit être breton, je balance cette blague. Bon, bref, tu l'as mal pris, je le sens à ta voix que tu l'as mal pris.
Évidemment.
Ah non, pas du tout. Non, mais il suffit de connaître l'histoire pour savoir que non, t'es en Bretagne, c'est tout.
Voilà.
Après, si l'histoire commence au XXe siècle, c'est autre chose.
On en redébattra une autre fois. Merci Pierre, on retourne au multi en rugby et ça cartonne sévère aussi à Aimé Giral entre Perpignan et Lyon.
Ouais, toujours cette capacité de réaction des Catalans qui ont encaissé un essai mais qui depuis ont la main sur le ballon et sont dans les 22 mètres des Lyonnais pour de suite marquer un essai comme ils ont fait en première période. À chaque fois que Lyon a marqué dans la foulée, les Catalans avaient marqué derrière et là ils ont envie évidemment de faire pareil pour prendre l'avantage. Et encore une fois, est-ce qu'ils sont passés derrière la ligne? Monsieur Descôtes ne va pas accorder cet essai et cette fois-ci Poissolo Tuilagi lui relève le ballon. Alors quand il est au milieu du terrain, il est inarrêtable, mais alors à un mètre de la ligne, quand il lève le ballon, évidemment derrière ça fait mouche pour Poissolo Tuilagi qui vient marquer cet essai. Julien, on parlait de la volonté de jeu, mais il y a aussi cette capacité de réaction des Catalans cet après-midi qui ont réussi à marquer à chaque fois que les Lyonnais ont marqué un essai. Derrière, les Catalans ont réagi en marquant aussi un essai et reprennent le large au score.
Voilà l'ouverture du score avec la pièce qui tombe du côté rennais, Calimundo qui met le but. L'ouverture du score pour le Stade Rennais. Je vous disais qu'ils avaient quand même l'intention d'aller un petit peu plus loin qu'un point, un seul point. Pour l'instant, ce sont 3 points importants dans la course à l'Europe. Ils vont saluer les 500 supporters rennais qui ont fait le déplacement à 100 km seulement au nord, pas à l'ouest. Et ils sont descendus jusqu'ici pour voir pour l'instant les Rennais mener 1-0 après 67 minutes.
Et ça va mal pour Nantes qui n'a remporté que 2 des 20 derniers matchs face à Rennes. Et là, ça se complique une nouvelle fois pour les Nantais dans cette 30e journée de Ligue 1. Les temps et scores un petit peu partout. On commence au rugby et au Stade français, Stade Jean-Bois, Arthur, j'entends les scores.
On vient tout juste de dépasser l'heure de jeu, 24 à 14 pour Bayonne, mais le Stade français est revenu des vestiaires avec les meilleures intentions.
Temps et score, Oyonnax Racing, Pierre Thévenet.
62e minute, 24 à 13 en faveur du Racing et une mêlée à 5 mètres de l'embut d'Oyonnax pour les Racingmen.
Stade français, Bayonne, on vient de le faire. Pau Montpellier, temps et score, Paul Lafitte.
À 13 minutes de la fin de la partie, Pau se donne encore un petit peu plus d'air. 24 à 13, nouvelle pénalité inscrite par Joe Simons.
Et puis Julien Landry, Perpignan, Lyon.
Transformation ratée par les Catalans qui mènent de 12 points, 32-20, alors qu'il reste 17 minutes à jouer.
Et Pierre-Yves Leroux sur le foot, temps et score pour l'entraîne.
Alors que Ludovic Blas cède sa place pour les dernières minutes, c'est Rennes qui mène 1-0 grâce à Kalimuendo. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. C'est Bourigeaud qui va rentrer pour ses dernières minutes.
Allez, le suspense est au rendez-vous de la dernière demi-heure de l'Intégral Sport qui vous attend sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Et Julien Brugno, la 21e journée de Top 14, le multi-rugby, mais aussi la Ligue 1 avec Nantes-Rennes, 30e journée. Et ce soir, en parlant de rugby, il y a quand même un choc énorme qui nous attend au stade Vélodrome Toulon face à Toulouse, 21h05. Là, ça mérite son petit.
Au vu des dernières prestations de Toulon, avec le retour de Serein, on attend vraiment un grand match ce soir. Toulouse a fait tourner, hein, Toulouse a mis au repos certains joueurs, mais Toulouse reste une belle équipe.
Allez, on file.
Les Montpellierains qui sont sur la ligne. Ils assistent. Ils sont à un mètre de la ligne en but. Ils sont toujours menés 24-13 sous les yeux de Monsieur Marbeau, l'arbitre. C'est Baptiste, me semble-t-il. C'est ouais, le deuxième ligne international qui s'est couché. Non, finalement, il se relève. Drivé par Léo Colli, peut-être en bout de ligne. Laissez Montpellierains. On le sentait venir. Et qui relance complètement les débats ici sur la pelouse du hameau, puisque Montpellier.
Parisienne à Zambois, encore une fois. Troisième essai parisien. Les Parisiens vont beaucoup mieux en cette deuxième période et c'est un nouvel essai sur le côté gauche. C'est encore parti d'une très bonne touche dans les 22. Un bon lancement de jeu, des passes dans le dos, ça va beaucoup mieux côté parisien. Les trois quarts se trouvent, les avants aussi, la conquête va mieux. Et c'est un nouvel essai pour le Stade français de la part de Julien Delbouis, le trois quarts centre formé à Massy.
Et c'est au Racing également. Et c'est du Racing, les Racingmen qui prennent le large. On essaie de Fabien Sanconi après une touche à 5 mètres de l'embut du Racing. Le lancer parfait en fond d'alignement. Boden qui dévie et le Garek qui envoie directement son deuxième ligne derrière l'embut. Ça va faire 29-13 en faveur du Racing avant la transformation de Tristan Teder. Le Racing qui ne propose pas grand chose mais qui est ultra efficace à un quart d'heure du terme. 16 points d'avance avant la transformation, 29-13.
Allez, et 31-13 à l'instant. On revient dans l'ordre avec Paul Lafitte d'abord parce qu'il y a eu essai.
C'est un essai qui relance complètement les Montpelliérains. Un essai en bout de ligne d'Anthony Boutier. La transformation à venir de Louis Carbonel. Et ça semble passer entre les poteaux. Eh non, ça passe à gauche. Finalement, l'essai n'est pas transformé. Mais Montpellier est revenu à seulement 6 longueurs de la section paloise. Un essai transformé permettrait donc aux hommes de Patrice Cloiseau de passer devant. Suspense garanti, moins de 7 minutes à jouer. Donc, et cet essai de l'espoir pour Montpellier. 24 pour la section, 18 pour le MHR.
Et c'est l'essai de la victoire pour les 4. L'essai de la victoire à l'instant, sûrement Alex, marqué à l'instant par Vincent Mongaillard, le talonneur qui avait fait son entrée. Et voilà les Catalans qui vont mener 39-20, 5 essais à 3, avec l'objectif peut-être, Julien, dans cette fin de partie, d'aller chercher le bonus offensif pour s'offrir une fin de saison de rêve en allant peut-être titiller le top 6. Et transformation aussi pour McIntyre.
Et pourquoi pas, j'aurais te dire, ces Perpignanais sont tellement surprenants en cette fin de saison que pourquoi pas, ils le mériteraient au vu du match.
C'est les alpinistes, les gars. Ils sont partis de tout en bas et ils sont en train de grimper, on les arrête plus.
Mais Azema est arrivé, construction.
Le pénalty pour Rennes. Ah oui, la faute sur Kalimuendo. Lafond qui voit Kalimuendo servi en profondeur par Doué, qui avait déjà transpercé le milieu de terrain nantais sans que personne ne cherche à l'arrêter. Et derrière, il sert Kalimuendo en face à face. Le petit crochet à droite et Lafond qui touche le joueur. Ça donnera un pénalty dans quelques instants pour les Rennais qui devraient leur permettre de faire le break et de mener 2-0 à l'entrée dans ce dernier quart d'heure et les assurer quasiment de façon certaine des 3 points. Et c'est Benjamin Bourigeaud rentré en jeu il y a quelques instants qui va s'en saisir du ballon et se retrouver en face à face avec Lafond dans quelques instants.
Ouais, on revient vers toi dans une seconde, Pierre-Yves Leroux, mais au Stade français qui tente de revenir Arthur Jean face à Bayonne et s'est transformé. Hein.
67e minute de jeu, essai transformé par Zach Henry, un essai inscrit par Julien Delbouis, le premier centre parisien, 24-21.
Allez, on retourne à Nantes, Nantes-Rennes avec un pénalty pour les Bretons, Pierre-Yves Leroux, pour les Bretons rennais évidemment.
Oui, pour Benjamin Bourigeaud qui est entré en jeu il y a quelques instants, qui n'avait pas fait un bon match contre Toulouse et qui était remplaçant aujourd'hui et qui donne là la possibilité aux Rennais de mettre un deuxième but au très bon moment après l'ouverture du score il y a quelques instants. Benjamin Bourigeaud, déjà auteur de 7 buts cette saison avec le Stade Rennais, qui va s'élancer. C'est parti.
Bon, l'essai de la section paloise
pour Benjamin Bourigeaud, et le but, le deuxième but pour les Rennais face à Lafond, 2-0 désormais pour Rennes, qui reprend sa marche en avant, pourquoi pas vers l'Europe.
Rennes 6ème de Ligue 1 provisoirement, 7ème de Ligue 1 si je ne me trompe pas provisoirement, Pierre-Yves Leroux, hein, ça remonte.
Oui, exactement. C'est pour la section paloise, Alexandre. Cette course à l'Europe, ils sont actuellement 7e avec un match d'avance et évidemment sur les Lyonnais qui sont derrière.
Paul Lafitte pour Montpellier, section paloise qui marque.
Ah oui, l'essai de Tesperes qui venait de rentrer en jeu, qui avait remplacé Jack Maddox sur plusieurs temps de jeu. Ils ont insisté, les Béarnais, dans un premier temps. Ils ont reculé, mais ils ont insisté. Et finalement, avec la belle charge de Nathan de Cron, le 3-4 centre qui avait marqué un essai, le deuxième essai pour les Béarnais, c'était en première mi-temps, eh bien il met les cannes, il trouve en hauteur d'Espérès qui franchit la ligne d'en but pour certainement laisser libérateur pour les Béarnais qui mènent désormais 29-18 avant la transformation à venir pour Joe Simon. Julien, là les Béarnais ont peut-être fait l'essentiel dans cette fin de partie face à Montpellier.
Ouais, c'est sûr que de réagir aussi vite que ça, hein, mais c'est vrai que c'est deux oppositions de style, hein, une équipe montpellierienne, alors tu l'as insisté, avec des avants très costauds, même derrière, hein, c'est très costaud, un jeu assez direct, et c'est vrai que des palois qui sont plutôt flués, qui déplacent beaucoup ballon et qui vraiment trouve la solution, en tout cas en débordant cette défense qui est pour moi un peu apathique, hein, lourde, donc du coup est très efficace sur ce premier rideau si on vient les affronter, par contre du mal à se déplacer. Bon voilà, après je pense que l'erreur en tout cas des Palois pour encaisser cet essai des Montpellierains, c'est justement de laisser le ballon aux Montpellierains et de subir un peu ces assauts, c'est très difficile, les Palois ne sont pas munis, en tout cas sont pas armés pour résister aux assauts des Montpellierains, par contre leur arme, et celle-là elle est fatale, ouais, c'est la vitesse.
Et oui, la vitesse et la transformation de Joe Simons, 31 pour Pau, 18 pour Montpellier. Alexandre, les carottes semblent cuites, en tout cas pour les Montpellierains. Ils vont peut-être aller chercher un bonus défensif, mais pour l'instant Pau fait la très très bonne opération en vue du top 6 évidemment. 31-18, moins de 3 minutes à jouer.
Allez, il y a des écarts qui sont en train de se créer, notamment au top 14, temps et score messieurs sur toutes les pelouses. On commence par Aimé Giral, Perpignan, Lyon, Julien Landry.
8 minutes encore à jouer à Aimé Giral et les Catalans mènent 39-20. Dernier objectif, aller chercher le bonus offensif pour les hommes de Franck Azéma.
Temps et score, Oyonnax Racing, Pierre Thévenet.
13 pour Oyonnax, 29 pour le Racing qui pour l'instant a son bonus offensif en poche, 4 essais à 1. Il reste 9 minutes à jouer à Charles Matin.
La même chose s'il vous plaît, monsieur Arthur Jean, Stade Français Bayonne.
70e minute de jeu, le Bayonne mène toujours 24-21 à Jean-Bois.
Et pour Montpellier, Paul Lafitte.
Moins de 3 minutes à jouer, Alexandre, 31 pour Pau, 18 pour la MHR.
Et enfin la Ligue 1, Pierre-Yves Leroux n'entraîne.
Et 2-0 pour les Rennais après 79 minutes de jeu. Début signé notamment Bourigeaud sur pénalty il y a quelques instants. Et surtout la superbe manchette à l'instant de Mandanda qui évite le retour ou en tout cas le rapprocher des Nantais. Mandanda qui entre aujourd'hui dans le top 10 des joueurs les plus capés de la Ligue 1 à égalité avec un certain Henri Michel.
Ne bougez pas, l'Intégral Sport revient tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Allez, encore une vingtaine de minutes dans l'Intégral Sport ensemble avec Julien Brugnot et la 21e journée de Top 14. Sans plus tarder, on file à Pau pour Montpellier. Paul Lafitte, nouvel essai.
Oui, avec un essai de Dakouaka, la transformation de Léo Colli, mais ça ne changera rien. L'essai n'est pas transformé et le coup de sifflet final et la victoire de Pau qui s'impose 31-23. Pas de bonus défensif pour les Montpellierains de Patrice Collazo et de Bernard Laporte. Les Béarnais qui auront fait l'essentiel du jeu, hein, évidemment. Ils auront été devant au score, ils auront marqué 3 essais également marqués par Montpellier, mais les points en pied de Joe Simons auront fait la différence, Julien, et Pau qui s'inscrit un petit peu plus dans l'objectif d'un top 6 en fin de saison pour Montpellier, eh bien elle reste accrochée à la 13e place du classement général.
Ouais, cruel en tout cas dans cette position de classement.
Et le nouvel essai des Catalans qui sont en train de faire exploser tout simplement le loup. L'essai marqué par Dougie Valou et ça va faire 51-20. Julien, les Lyonnais ont encaissé 31 points dans cette deuxième période. Ils en ont marqué que 7. Et voilà les Catalans qui reviennent à un point à l'instant de la 16e place. Oui, les Catalans sont plus qu'à un point de la 16e place. Ils peuvent rêver à cette fin de saison.
On parlait de l'inconstance, en tout cas du plaisir de voir jouer Perpignan aujourd'hui. C'est vrai que les Perpignanais, à l'image du dernier marqueur, avec le grand sourire, Perpignan fait plaisir, Perpignan rayonne en tout cas.
Un match de contraste en fait
dans ce printemps.
Il y a l'inverse en face de l'autre. Hein.
Ah, ils ont pourtant les Lyonnais ont fait une bonne première mi-temps, ils ont inquiété ces Perpignanais, mais malheureusement c'est un match 80 minutes, je redis ce que je disais tout à l'heure, hein. Il faut être un peu plus constant.
Et puis il y a eu aussi un essai, il me semble, à Oyonnax, entre Oyonnax et le Racing 92, Pierre Thévenet.
Oui, le Racing déroule, hein. Le Racing déroule dans cette deuxième période, 36 à 13, nouvel essai pour Baptiste Chlouzenou. Le bonus offensif est sécurisé, tout comme la troisième place au classement des Racingmen. Et Oyonnax a coulé tout simplement dans cette deuxième période. 36-13, il reste 3 minutes pour peut-être marquer un deuxième essai pour Oyonnax, que l'addition soit un petit peu moins lourde.
Allez, on va dire au revoir à Paul Lafitte qui nous a magistralement commenté sur
Pau-Montpellier. Salut Julien,
merci beaucoup Paul, salut. Et Pau face à Montpellier, c'est terminé. Donc ce n'est pas terminé entre le Stade Français et Bayonne, Arthur Jean, et ça pousse même.
Et oui, il reste 5 minutes de jeu ici à Jean-Bouin. Le suspense est entier, 24 à 21 pour Bayonne. Mais le Stade Français s'est mis dans les meilleures dispositions pour revenir et campe dans les 22 mètres au Bayonnais. Touche en faveur du Stade Français au milieu du terrain. C'est Lucas Pérez-Blanc, qui lance cette touche. Et vraiment, il faut signaler, le Stade Français est revenu avec des intentions assez exceptionnelles de la mi-temps. Les murs ont dû trembler dans les vestiaires. Il reste 5 minutes de jeu.
Il y a deux visages des deux équipes. Hein, des Bayonnais en première mi-temps qui tout réussissaient, en tout cas, face à une équipe qui était un peu aux abonnés absents, mais c'est vrai que dans cette seconde période, deux cartons jaunes, beaucoup de fébrilité, ils ont moins le jeu, en tout cas moins la main sur le ballon. Et c'est vrai que bon, même si je trouve que le Stade Français met beaucoup plus envie, mais n'est pas non plus maître du jeu. On les voit offensivement, il y a beaucoup encore d'erreurs, mais en tout cas c'est un 21-0, non pas un 21-0 pardon. C'est un clean sheet de la part du Stade Français dans cette seconde période. Écoute, j'espère que ce mauvais début, cette mauvaise première période ne sera pas regrettée à la fin du match.
Et puis on va revenir te voir dans un instant, Arthur, hein, pour la fin de match. Évidemment, on va juste faire un point au foot avec la 30e journée de Ligue 1. Nantes Rennes, c'est le derby de Bretagne qui arrive, Leroux.
On est entré dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. C'est Rennes qui mène 2-0 et des supporters nantais qui sont en train de voir la 9e défaite consécutive des Nantais à domicile. C'est quelque chose quand même d'incroyable, toute compétition confondue. Et ça ne va pas s'améliorer très certainement, parce que dans ces 5 dernières minutes, on voit mal comment ils pourraient inverser la tendance. Rennes qui mène 2-0 grâce à Kalimundo et Bourigeau.
Allez, on retourne à Jean-Bouin parce que c'est très chaud entre le Stade Français et Bayonne, Arthur Jean.
Il ne reste que 3 minutes, Bayonne met toujours 24 à 21, mais le suspense est entier ici à Jean-Bouin et le public pousse le Stade Français pour que les Parisiens reviennent. On a un petit en avant parisien, mot improductif, excusez-moi, et ça sera donc une mêlée en faveur de Bayonne. Et on sent que Bayonne a quand même toujours quelque chose à jouer, hein, sur des petits coups d'éclat, sur des petits éclairs, mais le Stade Français malgré tout reste maître du ballon et campe dans les 22 mètres bayonnais depuis le début de la deuxième mi-temps finalement.
Et puis on va aller aussi à Oyonnax Racing, là aussi ça joue encore, Pierre Thévenet.
Et nouvelle pénalité à venir pour les Racingmen qui mènent 36 à 13. T'en parlais, Julien, de ce match parfait à l'extérieur fait par les Racingmen. Ils ont été froids, ils ont été réalistes malgré une première mi-temps compliquée. Et là, Teder va prendre les 3 points alors qu'il mène 36-13. Pas de débauche d'énergie inutile pour les hommes de Stuart Lancaster. On va aller tenter les 3 points. Ça part pour Teder. Il est en coin à 45 mètres des poteaux oyonnaxiens. Ça va passer à gauche et peut-être une relance à venir. Allez, pour Darren Sweetnam. Il a un peu de champ devant lui. C'est bien coupé tout de suite par les Franciliens. 36-13, bonus offensif en poche. Les Franciliens vont s'imposer. Il reste 10 secondes à jouer ici à Charles Maton.
Et puis l'écart aussi est là entre Perpignan et Lyon, Julien Landry.
Ouais, la sirène a retenti, les Catalans vont s'imposer 51-20, barreau d'honneur des Lyonnais qui vont essayer d'aller marquer ce dernier essai qui ne changera rien au score, rien au bonus offensif des Catalans. Mais Julien, quand on regarde le calendrier de l'USAP, il va se déplacer à Montpellier la semaine prochaine avec 5000 Catalans qui ont déjà décidé de faire le déplacement. Réception de Clermont, déplacement à Bayonne, réception de Bordeaux et dernier match à Pau. L'USAP a peut-être un calendrier favorable pour aller chercher quelque chose d'extraordinaire en fin de saison. Eux qui restaient sur deux saisons avec les Access Match vont peut-être aller titiller le top 6. C'est terminé à l'instant. Victoire de l'USAP 51-20, bonus offensif dans la poche. Les Lyonnais ont fait exploser le loup.
Merci.
Et un dernier essai pour le Racing. Oui. Un dernier essai pour le Racing. Jusqu'à la fin, ils ont remis la tête sous l'eau aux Oyonnaxiens. C'est Jordan Joseph qui a récupéré un ballon qui traînait mal, dégagé par la défense d'Oyonnax. Il l'a récupéré avec sa puissance qu'on lui connaît. Il est allé derrière la ligne. Tristan Teder va pouvoir transformer tranquillement. Il est quasiment sous les poteaux. Le Racing va s'imposer. faisait 43 à 13. Assoit donc sa place sur le podium. Oyonnax n'a toujours pas gagné le moindre match en 2024. Sa dernière victoire, c'était face à Pau en décembre dernier. Il va falloir gagner certains de ces matchs, notamment à domicile. Ils en auront encore 3 à jouer à Charles-Maton pour tenter un exploit et réussir à se maintenir. Le Racing, dans sa course au top 6, va de son côté à Toulouse la semaine prochaine pour affronter le Stade Toulouse.
Et le Racing, au meilleur des moments, en tout cas, retrouve en tout cas un match plein, un match tactiquement et stratégiquement en tout cas très intéressant. Et c'est vrai que le Racing, à qui on louait une attaque en tout cas des galactiques en début de saison, ben finalement nous a montré qu'ils étaient capables aussi de ferrailler, de travailler et de faire des matchs en tout cas très sérieux à l'extérieur.
Alors c'est terminé à Perpignan, entre Perpignan et Lyon, donc avec Lyon-André. C'est terminé à Popo Montpellier, ça joue encore à Jean-Bouin, Stade Français Bayonne. Arthur Jean
et Léo Barret, des cannes de feu hein. Il reste que 2 minutes ici à Jean-Bouin. Le Stade Français est toujours mené de 3 petits points par Bayonne, possession en faveur de Bayonne. On est au milieu du terrain et Bayonne qui essaye de se débarrasser du ballon le plus possible, mais il retombe toujours dans les mains parisiennes ce ballon et on sent qu'il y a des envies de jouer. 24-21 pardon pour Bayonne, toujours 3 petits points d'écart, et le Stade Français qui a toujours autant d'intention hein, qui veut aller chercher ce résultat favorable qui leur permettrait de garder cette place de leader, 3 points devant le Stade Toulousain. Pour l'instant le Stade Français dans les clous du bonus défensif, mais ce n'est pas suffisant évidemment pour le leader du top 14.
C'est un match au mental, Julien, là. Ce qu'on voit c'est franchement les deux faces possibles qu'on a vues, les deux visages différents.
Ouais, même si en première période ils étaient totalement absents, mais c'est vrai que cette capacité en tout cas à switcher, à basculer, à montrer un autre visage montre encore une fois hein, ce que disait Laurent Labitte dans le Midi Olympique cette semaine, cet état d'esprit en tout cas de cette équipe qui est incroyable. Oui, ok, ça arrive à tout le monde de passer à travers, mais cette réaction en tout cas montre que c'est un grand du championnat aujourd'hui.
Et c'est terminé à Oyonnax, Pierre Thévenet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre. C'est terminé au Oyonnax qui perd face au Racing. On reste avec toi, Arthur Jean. Tu as le fil rouge avec cette fin de match de folie entre le Stade Français et Bayonne.
1 minute de jeu et je peux vous dire qu'il est impossible de savoir qui va s'imposer pour l'instant. Ballon toujours en possession des Parisiens sur la gauche. Défense extrêmement agressive.
Oui, et le troisième but pour les Rennais. Et bien voilà, cette fois c'est clairement terminé avec le but du remplaçant Amine Gouiri. 3-0 pour Rennes dans ce derby ici à la Beaujoire. Une nouvelle humiliation pour les Canaries face à cette équipe rennaise qui a bien finalement tissé cette victoire en deuxième période plus facilement, et Kalimuendo avec Bourigeaud sur penalty et avec Gouiri désormais. On rappelle quand même que sur les 20 derniers derbies, Nantes n'en a gagné que 2. Le 21e sera à nouveau pour les Rennes.
Ouais, la Bretagne est plutôt rouge ce samedi après-midi. Rennes qui est remonté à la 7e place du classement. Arthur Jean, Stade Français Bayonne, ça chauffe encore.
Et c'est terrible puisqu'au centre du terrain, il reste 30 secondes à jouer. Ballon gratté par les Bayonnais. Et les Bayonnais qui mènent toujours, on le rappelle, 24-21, et qui, avec cette possession, pourraient se permettre d'assurer une victoire et peut-être 4 points. 4 points qui pourraient leur permettre d'aller chercher une place dans le top 6, peut-être à l'entrée du top 6, puisque c'est Bayonne et La Rochelle qui se partagent cette place-là. Mais en tout cas, Bayonne, et c'est un petit peu le.
C'est
un petit peu
le. C'est Bayonnais.
Et c'est regagné par le Stade Français. Léon Barré avec ses 4 de feu qui décide de percer dans la queue de terrain. Ils vont peut-être aller chercher cette série de Français. Léon Barré arrêté à quelques mètres par les Bayonnais sur la droite du terrain. Et ils peuvent le faire, le Stade Français, à ce rythme-là. On va peut-être aller derrière la ligne. C'est un jeu d'avant. Baptiste Pesanti qui mobilise quelques défenseurs et le ballon est dans le but. On n'arrive pas trop à voir ce qui se passe ici, mais le ballon est toujours en possession du Stade Français juste sur la ligne. Alors est-ce qu'ils vont aller le faire ces Parisiens? Ça fait déjà 30 secondes que le coup d'envoi a été sifflé. Écarté sur le côté gauche, c'est Koubakalou peut-être. Et c'est l'essai de Stade Français. Le Stade Français qui s'impose sur la sirène, 29-21. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils viennent de faire, le Stade Français. Une remontada énorme à la faveur du deuxième mi-temps exceptionnel. Et ils l'ont fait. Quel caractère des leaders du top 14. Léo Barré, l'action enclenchée par Léo Barré sur le côté droit. J'ai plus de voix, je m'en excuse.
Mais ça, c'est le baptême du feu d'Arthur Jean sur
Oh là là, c'est incroyable.
Quel
c'est incroyable.
Il nous offre, Arthur. On a envie de te demander de chanter avec Julien Bonon, mais tu as chanté cette fin de match.
J'ai chanté, mes cordes vocales ne me remercieront pas demain, ça c'est certain. Et c'est de Giovanni Abel-Kufner qui avait fait son entrée sur le triple changement à la demi-heure de jeu. Le numéro 8 qui partira justement pour Bayonne à la fin de la saison. Quel symbole ici à Jean-Bouin.
Et comme quoi, on va attendre trop vite, j'allais justement louer hein, qu'à chaque fois qu'on présente Bayonne, l'équipe qui ne gagne jamais à l'extérieur, et bien tout le monde, c'était ça compté sur Léo Barré hein, quelle action, en tout cas, quel coup de gaz, en tout cas, il nous a mis dans. Puis après, attention, et regarde encore du coaching, on sort Makalou parce qu'il est pas trop dedans en début de première mi-temps. On le fait rentrer, bon, même s'il fait que la passe, mais bien placé, en tout cas, c'est lui qui donne cet essai. Mais hey, le Stade français, quand même, on peut dire c'est ce qu'on veut, mais depuis le début de la saison, il nous propose des scénarios qui sont totalement hallucinants.
Il y avait des victoires où on pouvait se dire que le Stade français avait un niveau de jeu qui était peut-être pas suffisant pour aller au bout, pour être leader, pour aller chercher ces phases finales. Mais là, ils nous ont montré avec leur caractère. Et surtout, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que le Stade français, on le sait, c'est la deuxième pire attaque du top 14. Et c'est sur ça que ça s'est joué, cette deuxième mi-temps. On a des trois quarts qui sont beaucoup plus facilement trouvés. Et cet essai de Giovanni Abel-Kufner, il intervient encore après une grosse, grosse relance de Léo Barré, l'arrière parisien, qui a été tout simplement décisif sur cet essai du Stade français. On attend la transformation.
Tu nous rappelles le récit un peu du match en deux, trois mots, Arthur, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Hein, Bayonne avait archi dominé la première période.
C'est ça, Bayonne avait vraiment dominé cette première période. Des Bayonnais joueurs, hein, pourtant 10e au classement face aux leaders du top 14 à l'extérieur, ce n'est jamais facile. Et pourtant, un doublé de Cheikh Tiberian dans ce premier acte, un autre essai de Federico Mori, le trois quarts centre italien. On pensait les Parisiens un petit peu perdus, un petit peu laissés pour compte sur le côté. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires dans cette mi-temps du Stade français, mais les murs ont dû trembler, puisqu'en deuxième période, le Stade français a quasiment inscrit tous ses points à la faveur de ce dernier essai. Et cette transformation qui est passée en plus par Joris Second, c'est terminé ici au Stade français. Le leader garde son avance de 3 points sur son dauphin, le Stade toulousain. Encore une grosse performance du Stade français. Quel caractère des hommes de Karim Ghezal. Et on a hâte de voir ce qu'il nous propose pour la suite, parce qu'avec ce match-là, ça peut être fondateur avant d'aborder ce sprint final et ses passes finales, top 14.
Ouais, complètement, ils sont passés à travers des crises internes, ils sont passés à travers un nombre de scénarios qui soudent une équipe, en tout cas. Effectivement, c'est une équipe sans grande star. On parle de Makalou, Léo Barré, qui est la nouvelle pépite du Stade français qui monte. Mais c'est vrai que cette équipe, on parle d'équipe en fait. Le Stade français, on parle en permanence d'une équipe qui est capable de renverser des situations incroyables à domicile, qui est capable d'aller gagner à l'extérieur. C'est le meilleur moment, en tout cas, de montrer encore une fois son caractère avant d'attaquer cette dernière ligne droite.
Et messieurs, c'est fini au foot. N'entraîne Pierre-Yves Leroux.
Et oui, nouvelle humiliation pour les Canaries à domicile avec cette victoire 3-0 du Stade Rennais chez le voisin, grâce à Kalimundo 67e, Bourigeau sur penalty 76e et Guiri 90e. Les Rennais qui se relancent dans la course à l'Europe, alors que les Nantais se font à nouveau peur pour ce qui est du maintien.
Un petit mot de la fin, mon cher Julien Brugno. Merci pile, Julien. Ça a été un multi incroyable.
Eh ben écoute, c'était incroyable. Franchement, quand on a parlé un petit peu avant, ça s'attendait pas du tout à ces résultats-là, ces scénarios-là, et c'est vrai que on s'est encore une fois régalé.
C'est la gourde magique qui fait ça. Merci Julien d'avoir été avec nous dans cette 21e journée de Top 14. Ça se poursuit ce soir. Toulon, Toulouse, on va pouvoir en parler. Tiens, un petit mot sur Toulon, Toulouse après toutes ces rencontres qu'on a eues aussi. Ça, c'est le choc ce soir.
Ah ben on attend. Moi, j'ai hâte de voir Toulon. En tout cas, jouer face à Toulouse. Hein. Toulon, une équipe qui se retrouve enfin. C'est sûr que le retour de Baptiste Rhin pèse énormément, en tout cas dans l'animation offensive des Toulonnais. On a l'impression que c'est le chef d'orchestre. Normalement, on dit que c'est le demi d'ouverture. Lui, c'est le chef d'orchestre. Il amène une certaine confiance qui fait qu'aujourd'hui, les Toulonnais pourraient peut-être bousculer un peu ces Toulousains magnifiques sortants de la Coupe d'Europe.
Stade français, Bayonne, avec la victoire incroyable du Stade français qui était mené quasiment tout le match. Ça, c'est le fait de la journée. Mais quel autre match t'as le plus convaincu, j'ai envie de dire, cet après-midi? Peut-être Perpignan qui continue encore sur sa lancée.
Perpignan, ouais, il y a deux matchs. Perpignan qui, encore une fois, c'était pas juste un feu de paille, est capable par son jeu, par ce qu'elle propose offensivement, en tout cas, de passer toutes les étapes qu'on leur propose. Et après, un petit cri du cœur, le Racing qui va s'imposer, qui fait un match plein à Oyonnax. Voilà, même si Oyonnax, effectivement, bon, une bête blessée, bientôt enterrée en Pro D2, mais en tout cas, il fallait faire ce match, ils l'ont fait, et de la plus belle des manières.
Ouais, et puis, on rappelle aussi Pau, hein, face à Montpellier, Julien, Pau qui ça a été un match assez ouvert, et finalement, Pau qui réussit à l'emporter.
Bah, des Palois, je suis content, même si, bon, le jeu d'avant, le jeu physique est intéressant, mais c'est vrai que je suis content que le jeu que prône, en tout cas, Sébastien Piccheroni, le jeu de mouvement, le jeu d'attaquer les espaces, en tout cas, a gagné aujourd'hui encore une fois. C'est vrai que ces Palois qui sont plutôt plaisants depuis le début de saison, la surprise, enfin on peut moins une surprise parce que maintenant ça fait quelques temps quand même qu'on les suit, mais c'est Palois qui par le jeu arrive à gagner leur match.
Et puis pour ce soir, du coup, un petit pronostic, qui tu vois entre Toulon et
ma qualité de pronostic. Non, mais sur la lignée, c'est dur de pronostiquer, surtout quand Toulouse fait tourner un petit peu, parce que on les voit souvent perdants. Mais bon, pour moi, Toulon quand même est dans une bonne dynamique. Au Vélodrome, ils ont à cœur, en tout cas, ils vont faire le record d'affluence de cette saison. Je pense qu'ils auront à cœur de gagner, en tout cas, à domicile.
Ouais, on va suivre ça de très très près. Évidemment, il y aura Toulon-Toulouse à 21h05 à vivre sur RMC. L'occasion aussi pour moi de rappeler le résultat du début d'après-midi. Castres qui s'est imposé dans un match complètement fou. Là aussi, 25 à 24 face à La Rochelle. Le temps pour moi de vous dire que le Super Moscato Show, mardi prochain, sera en direct du centre d'entraînement de La Rochelle à partir de 15h avec les invités suivants. Brice Dulin, Pierre Bourgarit, Winnie Antonio, Grégory Aldrit, Ronan Gara, et puis le plus grand rugbyman parmi eux, ça sera évidemment Stephen Brun. Il sera là dans le Super Moscato Show. Il aurait pu faire une très belle carrière, mais il a choisi une autre voie et ça lui a plutôt bien réussi aussi, parce que Stephen Time arrive dans un instant avec Arnaud Valadon. Et Stephen, bien sûr, il y aura des invités prestigieux, si je peux juste énumérer Nedim Remili, l'international français de handball. Il y aura aussi Mauro Gianetti, le manager de la team Emirates, le manager du grand Tadej Pogacar, et puis également Patrice Haddad, le président du Red Star. Bref, vous allez vous régaler dans l'heure qui suit avec Stephen Time. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis dans cet intégral sport feu d'artifice au niveau du rugby. Merci beaucoup, Julien. Comme d'habitude, fidèle au poste, tu reviens le week-end.
Comme d'hab, tout s'est bien passé.
Mais oui, bah surtout avec cette gourde là du démon.
Elle s'intrigue celle-là. Hein.
C'est incroyable. Merci beaucoup, Julien. Week-end prochain, on se retrouve évidemment. Et puis, en football, Rennes a remporté le derby de Bretagne face à Nantes 3-0. Les Rennais reviennent à la 7e place de la Ligue 1. Très bonne soirée à vous tous sur RMC. Dans un instant, c'est Stephen Time, Arnaud Valadon, Stephen Brun.